Il est presque 9h, juste après le journal. Votre sujet, Jacques Pradel ?
Oui, très rapidement, on va parler du réchauffement climatique, bien sûr, mais en posant des vraies questions. Que faire ? Est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Est-ce qu'il y a des solutions ? Et vous verrez en écoutant mes invités que l'un d'entre eux a une vraie solution. Il faut qu'on commence par une cure de désintoxication, parce que d'après lui, nous sommes drogués au pétrole et à l'énergie.
On l'écoute, c'est juste après le journal.
À demain, Nicolas Charbonneau.
À demain, 8h. Bonne journée.
Vous écoutez Europe 1, il est 9h.
Vous cherchez un hôtel à Lyon ?
118 712, vous répond vite et bien. 1,12€ par appel depuis un fixe.
Le journal, Nathalie Chauvence. C'est la dernière ligne droite au Parti Socialiste. La semaine décisive à 4 jours du vote interne et le premier secrétaire du PS l'affirme ce matin. La participation sera forte jeudi, au moins 80%. François Hollande appelle les militants à aller voter dès le premier tour. Le premier secrétaire particulièrement remonté aussi au sujet de la vidéo pirate concernant Ségolène Royal. Ceux qui ont fait ça seront plus que rappelés à l'ordre. J'ai tous les éléments, dit-il. Jusqu'à cette affaire, la campagne était exemplaire, mais aujourd'hui, on tente de tordre l'opinion par des coups. En tout cas, dans les sondages, c'est toujours Ségolène Royal qui fait la course en tête. Elle recueille 37%, mais perd 3 points par rapport au mois dernier. Plus 2 pour Dominique Strauss-Kahn à 27%. Stabilité pour Laurent Fabius à 11%. Enquête LH2 pour Libération ce matin. Ni Ségolène, ni Sarkozy, non à la rupture bidon. C'était le message de Jean-Marie Le Pen hier au Bourget devant ses militants. Pendant ce temps, à l'UDF, François Bayrou estime qu'entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, il n'y a pas de duel, c'est un duo, dit-il. Et pour y échapper, il n'y a pas que le Front National, il y a aussi son parti. Et côté Maurice Leroy, député UDF du Loir-et-Cher.
Il ne fait qu'exprimer tout haut ce que tous les Français pensent tout bas et nous disent. Vous ne pouvez pas aujourd'hui ouvrir une télévision, une radio, un journal sans avoir en permanence Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy. Et on nous refait le coup Jospin Chirac la dernière fois. Eh bien, je suis sûr, et je prends date, je suis sûr qu'il y aura une surprise dans le prochain scrutin, parce que le peuple ne se laissera pas imposer ce choix. Il y a vraiment besoin de bouger tout ce vieux système qui est usé jusqu'à la corde.
La dénonciation du système, c'est pas très éloigné de ce que dit Jean-Marie Le Pen.
Le vote Le Pen, il a abouti à quoi ? Il aboutit à faire que Jacques Chirac a fait 82% à l'élection présidentielle. Donc c'est stupide. Ça ne fait que renforcer le vieux système. C'est l'UMP et le PS qui se régalent dans le vote Le Pen. Eh bien, avec le vote Bayrou, il y a un vote républicain rebelle. Et c'est pour ça que ça monte dans le pays.
Voilà l'IDF Maurice Leroy avec Jérôme Chapuis. L'affaire Clearstream avec le tout premier commentaire de Michèle Alliot-Marie hier soir. La ministre de la Défense ne s'était pas encore exprimée depuis son audition devant les juges. Audition qui aura duré 12 heures. Eh bien, Michèle Alliot-Marie affirme que tout s'est déroulé d'une manière extrêmement ouverte et cordiale. Rappelons qu'elle était appelée comme simple témoin. J'estime que c'est un devoir et un honneur, car il est important que les responsables politiques donnent l'exemple, c'est ce que dit Michèle Alliot-Marie. Pour la deuxième fois en l'espace de quelques jours, la même église a été incendiée volontairement. Ça s'est passé ce week-end à Lyon et c'est l'église de la Sauvegarde dans le quartier de la Duchère qui a été ravagée par les flammes. Les incendiaires ont allumé le feu avec des cierges et du papier. La sacristie est détruite. Le prêtre a déposé plainte. Pour le moment, les enquêteurs n'ont interpellé personne. Hier soir, l'archevêque de Lyon, le recteur de la grande mosquée, le grand rabbin, le maire ainsi que le ministre à la promotion et à l'égalité des chances se sont rendus sur place. Le mal est fait, c'est le sentiment sur le bassin d'Arcachon. Aujourd'hui, les ostréiculteurs exigent réparation car les huîtres ont été mises hors de cause après la mort de 2 consommateurs l'été dernier. La profession attend des dédommagements. Une plainte contre X au pénal pour diffusion de fausses informations doit être déposée en début de semaine. Ensuite, l'État sera attaqué en responsabilité devant un tribunal administratif. Les ostréiculteurs estiment qu'il faudra une année de chiffre d'affaires pour que la profession relève la tête. Le ministre Dominique Bussereau lui a promis de nouvelles aides. Concilier travail et handicap, il y a 2 ans, une loi a été adoptée afin d'inciter les entreprises à embaucher. Les sanctions ont même été renforcées. Or, les quotas ne sont toujours pas respectés. Aujourd'hui démarre la semaine de l'emploi des handicapés, l'occasion de faire le point sur le handicap au travail. Fabienne Lemoyle.
Une amende plus lourde est même multipliée par 3 si l'entreprise s'obstine plusieurs années à ne pas vouloir employer au moins 6% de handicapés. L'argument financier de la loi de 2005 semble convaincant puisque l'emploi des handicapés est en hausse de plus de 4% en un an. Mais beaucoup reste à faire avec un taux de chômage presque 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Car comme le dit Marie-Sophie Dessol, la présidente de l'Association des paralysés de France, une loi ne suffit pas pour changer les mentalités.
Lorsque vous avez devant vous à compétence égale une personne qui a un handicap et une personne qui n'a pas un handicap, bah vous continuez à préférer à embaucher une personne qui n'a pas de handicap. Ça fait encore plus peur lorsque les personnes ont un handicap physique parce qu'on se dit qu'il va falloir rendre accessibles les locaux de travail. Je dois dire d'ailleurs que dans les décrets qui ne sont pas encore sortis, il y a notamment les décrets qui concernent l'accessibilité des locaux de travail. Donc comment on aménage les lieux pour que les personnes handicapées puissent accéder aux locaux de travail. Et celui-là, il n'est pas sorti, alors que ça fait presque 2 ans, et il n'est même pas commencé à discuter avec les associations.
Autre souci, que l'État montre l'exemple. L'État qui emploie moins de 4% de personnes handicapées, avec comme lanterne rouge Matignon, à peine 1,4%.
Les actes antisémites ont diminué de 47% en 2005 et cette tendance à la baisse se confirme pour 2006 en France. Message de Dominique de Villepin hier soir au Congrès juif mondial qui, pour la première fois en 50 ans, se réunissait à Paris. L'Iran, le nucléaire et la volonté du régime iranien de se doter de l'arme atomique ont été évoqués. C'est ça aujourd'hui le vrai problème. Message de Roger Kuckerman, le président du CRIF. Pour lui, le président Ahmadinejad tient exactement le même langage qu'Hitler. Un petit avion de tourisme qui atterrit sur une autoroute. Ce n'est pas une scène d'action dans un film, mais la réalité, chose vue hier après-midi sur la 66, pas très loin de Toulouse. Il y a eu une panne d'essence à bord. Du coup, le pilote a pris la décision de se poser. Heureusement, à ce moment-là, il n'y avait pas grand monde sur cet axe. Résultat des courses, aucun blessé. Reste à savoir ce qu'on va faire maintenant du petit appareil. 2 solutions. Soit les ailes sont démontées et l'avion remorqué. Soit le pilote aura l'autorisation de redécoller depuis cette autoroute. C'est prévu dans la réglementation. Le football, les Lille pointent désormais 2e au classement à 10 points de Lyon. Les Lillois se sont imposés hier soir face à l'OM. Le score 1-0 dans l'autre match. Écrasante victoire de Monaco contre 3. Le score 4-0. À suivre les marchés financiers.
La bourse avec europage.com. L'annuaire des affaires à l'international. Valorisez votre savoir-faire dans le monde.
Pierre Effaille.
L'indice CAC 40 stable à 5448 points vendredi soir à Wall Street. Le Dow Jones a terminé également quasiment inchangé à 12108 points. Le Nasdaq a gagné 0,58% à 2389 points. L'euro vaut 1,2865. Alstom poursuit son redressement. Le groupe a vu son bénéfice bondir de 67% en premier semestre. Mieux, le carnet de commandes atteint 10 milliards d'euros, ce qui permet au groupe de revoir en hausse ses prévisions de marge à l'horizon 2008. Et puis Alstom va récupérer un tiers du contrat géant du Transilien remporté par Bombardier auprès de la SNCF. Il a conclu un accord de sous-traitance avec le Canadien. L'action Alstom gagne ce matin 3,4%. À suivre, Eurazéro, Europcar, sa maison mère, rachète les activités du groupe Vanguard en Europe à un investissement de 670 millions d'euros. Europcar signe dans le même temps une alliance avec Vanguard aux États-Unis. Vanguard est plus connu sous les marques nationales Rent-a-Car et Alamo Rent-a-Car. ArcelorMittal ne va pas pouvoir vendre Dofasco à ThyssenKrupp dans l'immédiat. La fondation hollandaise créée par Arcelor pour se défendre contre Mittal il y a quelques mois, eh bien, elle refuse de se dissoudre. C'est elle qui détient les clés du Canadien Dofasco. Arcelor se tourne maintenant vers la justice américaine. Enfin, Benito réfléchit à des acquisitions aux États-Unis. Indication de son président au quotidien La Tribune.
Le ciel, la météo avec Air France.
À partir de mi-décembre, Air France rejoint Cuba tous les jours.
Du vent, des nuages et de la pluie, un vrai temps de novembre, c'est la tendance du jour. La consolation, c'est que les températures vont rester douces. Et si vous habitez dans le sud-ouest, en région Rhône-Alpes et sur le midi méditerranéen, vous aurez droit au soleil. Il fera 12 degrés à Lyon, 14 à Paris, à Lille et à Toulouse, 15 degrés à Bordeaux, 16 à Nantes, 18 à Marseille et 22 degrés pour Ajaccio. La télévision et Jean-Marc Morandini.
Oui, hier soir, c'était le retour des films sur TF1, retour très attendu. Alors, est-ce que les films arrivent à battre désormais les séries? Eh bien, TF1 aurait mieux fait de laisser les experts, puisque TF1 a été battu hier soir avec son film. En tête, on trouve en effet France 2 et la série FBI portée disparue, 7,5 millions de téléspectateurs et 27,4% de part de marché. TF1 n'est donc pas récompensé pour avoir remis des films le dimanche soir. Et pourtant, selon les sondages, il paraît qu'une majorité des Français voulaient le retour des films. Eh bien, il y a quasiment 1 million d'écart de téléspectateurs entre TF1 et France 2. 6,783 millions de téléspectateurs pour TF1 et 29% 50% de parts de marché. En troisième position, on trouve France 3 avec un téléfilm, 3,5 millions de téléspectateurs, et puis M6 avec Capital, 3 195 000 téléspectateurs et 12,7% de parts de marché. En deuxième partie de soirée, il y avait également un film sur TF1, 187 Code Meurtre, 1 600 000 téléspectateurs, 28,6, et puis un score moyen pour Enquête Exclusive sur M6, 1 700 000 téléspectateurs et 16,5%.
Et on vous retrouve à 10h30.
Voilà, alors on reviendra bien évidemment sur cette information. Le film a nouveau battu hier soir sur TF1. Et puis nous ouvrirons le débat des dérives de la presse People. Va-t-elle atteindre la télévision? Avec nous la rédactrice en chef de Closer, le directeur de la rédaction de François et Roland Pérez, médiateur d'Europe 1. Nous vous donnerons les résultats de notre sondage sur la Starac en direct également. Ludovic qui a été éliminé vendredi. Et puis nous vous parlerons d'un documentaire sur les fans que va diffuser ce soir à 20h50 France 3.
A tout à l'heure, 9h11 sur Europe 1. Passez une bonne journée.
C'était Nathalie Chevance et dans un instant on parle du climat avec Jacques Pradel et ses invités. Ce soir, 20h45 sur Arte, Sous le sable, le film de François Ozon. Un film sur l'absence. Charlotte Rampling et Bruno Kremer partagent l'affiche dans un drame psychologique intense sur la souffrance et la solitude après la disparition d'un être cher. Une poésie décalée propre à Ozon, servie par une Charlotte Rampling fascinante. Sur Arte, le cinéma est toujours au programme avec Sous le sable de François Ozon. C'est donc ce soir à 20h45.
Chez But, en novembre, laissez-vous surprendre par les tentations fortes.
Bientôt Noël, là il y a toute ma famille qui va débarquer. J'ai 15 petits neveux.
Le téléviseur LCD Grande Liga HD Ready, 82 cm.
Si c'est des dessins animés par exemple, j'imagine comme ça va être précis et vif.
Chez But jusqu'au 26 novembre, le téléviseur LCD Grande Liga 82 cm est à 799 €.
799 €. L'écran est immense, le prix est tout petit et avec ça mes petits-neveux vont se faire tout petit.
Alors, résisterez-vous à la tentation du spécialiste en juste prix. 1000 pièces disponibles dans toute la France.
Justice, tribunal, plainte, convocation, procès, assignation, voilà un monde inconnu qui fait peur. Alors qui saura vous éclairer, faire respecter vos droits? Qui peut vous conseiller au mieux pour éviter une procédure? Sinon, constituer votre dossier et mettre de votre côté tous les atouts pour gagner. Une seule personne? L'avocat? Oui, pour vous protéger, vous faire gagner, vous conseiller. Voyez un avocat, le plus tôt possible.
Aujourd'hui, 45 000 avocats sont là pour vous conseiller et vous accompagner dans tous vos projets. Les avocats, pour avancer dans un monde de droit. Et pour en savoir plus, avocat.fr.
Allô ? Ah, les nouveaux commerçants ? Oui ? Qu'est-ce que vous allez proposer pour la nouvelle opération chez U ? Des petits prix à moins de 1 euro, 2 euros ? Non, 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 mais attendez, je comprends bien que ça signifie pour les clients plus de bonnes affaires, mais comment je vais annoncer ça aux auditeurs ? Mais ils vont jamais me croire ! Comment ? C'est mon métier ! Oh, ils me disent que c'est mon métier maintenant, faut pas exagérer tout de
même. Opération tout petit prix euro des magasins U, c'est du 14 au 25 novembre.
U, les magasins U, les nouveaux commerçants.
Dans le désert marocain, une touriste américaine est blessée. À la frontière mexicaine, ses enfants sont pris en chasse par la police. À Tokyo, un homme est peut-être la cause de tout cela. Babel, Brad Pitt, Kate Blanchett, Gael Garcia Bernal, par le réalisateur de 21 grammes. Babel, prix de la mise en scène Cannes 2006, le 15 novembre au cinéma. Babel, un partenariat européen.
Que se passe-t-il avec le climat ? Des arbres fruitiers qui fleurissent de plus en plus tôt, les vendanges avancées de 3 semaines en moins de 50 ans, le recul des glaciers qui s'accélère sur tous les continents, la banquise du pôle Nord qui a perdu la moitié de son épaisseur depuis 1950, des sécheresses, des inondations, des tempêtes de plus en plus violentes. La nature est-elle en train de nous présenter l'addition de nos erreurs accumulées depuis les deux derniers siècles ? C'est fort possible. Jacques Pradel.
Oui, je crois que vous avancez pas trop, ma chère Julie, effectivement, et on va parler de ça, on va se demander aussi si on a raison d'avoir peur et de s'inquiéter quand même, c'est quand même la première des choses à se dire, avec mes invités que je vous présente tout de suite, Marie-Odile Delacour, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes journaliste indépendante et vous venez de publier dans une nouvelle collection qui s'appelle Les Carnets de l'Info aux éditions Scrinéo, un livre, je dis, remarquable par à la fois sa cohérence, bien sûr, et son contenu, parce que quand on sort de Climat, la grande menace, dont vous êtes l'auteur, eh bien, on a vraiment un état des lieux, et c'est là où on peut commencer à se poser la question de savoir si on a tort ou pas de s'inquiéter. Et puis, j'ai demandé à Jean-Marc Jancovici de venir également. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes ingénieur conseil, spécialiste de l'énergie et du climat, et vous publiez avec Alain Grandjean dont vous nous direz un petit mot tout à l'heure, qui est votre complice, il faut qu'on le sache, un livre qui est dans le plat, hein, si j'ose dire, puisque ça s'appelle Le plein, s'il vous plaît, avec ce sous-titre qui est très clair, puisque c'est une affirmation et pas une question, la solution au problème de l'énergie. Et l'une de vos solutions, c'est d'entamer d'urgence une cure de désintoxication, parce que vous nous dites dans ce livre qu'on est drogué au pétrole et à l'énergie. Alors on va parler de tout cela, bien sûr. Ce qui intéresse les gens, c'est de savoir si des solutions existent. Heureusement, oui, on peut répondre, hein, Marie-Odile Delaco, parce que ça a été une partie de votre travail. Quand même,
il y a beaucoup de solutions, mais il faut quand même beaucoup compter sur la prise de conscience de chacun de nous.
Voilà, exactement. Mais je crois que les simples citoyens sont prêts à faire beaucoup d'efforts. Mais encore faut-il qu'on les rassure aussi sur la réactivité, on va dire, des politiques, des dirigeants, des organismes internationaux. Alors, première question, Marie-Odile Delaco, puisque c'est comme ça que vous ouvrez votre livre. Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter? Parce que là, on a cité quelques exemples avec Julie. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres.
Moi, je pense qu'on a raison de s'inquiéter. Oui, que à mon avis, en faisant ce livre qui se veut une présentation, une vulgarisation d'un problème d'actualité, qui veut donner des clés, si vous voulez, pour essayer de s'y retrouver un petit peu dans la difficulté de la forêt de l'information, où finalement on capte des infos et en fait c'est anxiogène, on commence à s'inquiéter, mais ouais, on ne comprend pas les phénomènes. Donc le petit bouquin avait comme ambition d'essayer d'expliquer les phénomènes. Oui, on a raison de s'inquiéter, parce qu'à mon avis, la raison fondamentale, c'est que nous, les individus d'une société de consommation, on a complètement oublié qu'on faisait partie de la nature et qu'on fait partie d'un tout. Mmh. On a l'impression qu'on va pouvoir consommer à l'infini, sans arrêt, ouais, et ça, c'est à mon avis la raison de l'inquiétude.
Ouais, et sans payer ce que nous donne la nature. C'est-à-dire que la nature, et ça c'est un des axes, je ne dis pas ça par hasard, hein, Jean-Marc Jancovici, vous dites on oublie juste une chose, quoi, depuis quand même deux siècles, c'est que ce qu'on prend la nature, on ne le paye pas.
Absolument, la nature n'est nulle part dans le PIB. En fait, il faut bien voir que le PIB est quelque chose qu'on assimile à tort à un état de la planète, ou plus exactement à un état de l'humanité. En fait, le PIB, ce n'est pas un inventaire, c'est une donnée de flux. C'est oui, l'équivalent d'un salaire, si vous voulez, un PIB.
PIB
Produit intérieur brut, ouais, vous savez, c'est cette donnée-là qui augmente quand on a la fameuse croissance et qui baisse quand on a la fameuse récession. C'est bon, ça.
C'est clair, ouais.
Et c'est une donnée de flux, c'est-à-dire c'est essentiellement un empilement de salaire. Voilà, le PIB, c'est un empilement de salaire, et vous savez très bien qu'on peut avoir des salaires qui augmentent alors qu'on va à la faillite.
Que vous dites dans votre livre.
Oui, exactement.
Vous très bien aller dans le mur complètement.
Avec le PIB qui augmente temporairement. Oui,
ça rassurera tous les économistes.
Ça ne pose aucun problème théorique. Ouais. Parce qu'en fait, on a aujourd'hui, à l'échelle de l'humanité, un système économique de type minier. C'est-à-dire que la croissance de notre activité est basée sur la croissance des prélèvements d'un certain nombre de ressources non renouvelables ou qui ne se renouvellent pas au rythme auquel on les prélève. Mm-hmm. Donc on a une économie de type minier, et chacun sait que quand la mine se termine, et la mine se termine. Voilà. Donc, ouais. Et ça ne vous empêche pas, éventuellement, pendant un petit moment, d'avoir un chiffre d'affaires lié à l'exploitation de la mine qui lui va en augmentant.
Voilà, donc on a des raisons économiques de s'inquiéter. On a Marie-Odile Delacour, là on a cité des exemples, les arbres fruitiers, la banquise, les inondations, les tempêtes, etc. On en parlait juste avant de commencer l'émission, parce que je vous disais, bon, il n'y a pas encore vraiment les éco-réfugiés, et vous me dites, mais si, ça existe déjà.
Oui, il y a des éco-réfugiés, alors ils ne sont pas encore systématiquement abandonnés définitivement à leur sort, mais je pense là immédiatement à des Hollandais qui se sont retrouvés, je crois qu'il y a eu plusieurs dizaines de mille habitants de Hollande qui ont dû bouger il y a quelques années, vous allez peut-être me souvenir de la date, à la fin des 90, parce que le niveau de la mer était tellement haut qu'on a dû les déplacer.
Ouais, et en plus, le pays est protégé par des digues, il ne veut pas que ça monte trop vite.
Voilà. Et comme la plupart, une grosse partie des habitants de la planète vivent à moins de 300 mètres de niveau de la mer, on peut vraiment penser qu'il y a des raisons de s'inquiéter pour l'avenir.
Voilà. Et on peut ajouter, pour que le tableau soit complet sur le fait qu'on a raison de s'inquiéter, c'est que ces modifications du climat, et on va voir dans un instant avec Jean-Marc Jancovici que ça tient, j'allais dire, à une queue de cerise, hein, au niveau de l'élévation de la température, ça touche également tous les vivants, c'est-à-dire pas que les hommes, mais également, par exemple, les migrations animales.
Les migrations animales, là, on a l'impression qu'il y a des migrations des espèces du sud qui rejoignent le nord de plus en plus, et les poissons, je parle des écureuils par exemple,
aussi,
ou des renards,
voilà,
qui remontent de plus en plus vers le nord. On dit aussi par exemple qu'il y a des phénomènes très excessifs, remarquables, comme en Mongolie, où il y a des sécheresses spectaculaires depuis des années, des vents asséchants qui amènent du sable dans la région de Pékin et qui recouvrent toute une partie de la ville de plus en plus souvent. Vous voyez, il y a quand même des phénomènes qui, quand on les rassemble.
Ah, voilà, c'est ça. Et c'est le mérite de votre livre. Quand on les rassemble, ça donne un tableau qui est quand même pas folichon, quoi. Alors, 01 42 32 15 15 pour vos questions, vos réactions, vos témoignages par téléphone. Europe1.fr si vous êtes sur Internet. Et on va continuer à parler de ce réchauffement et à essayer de vous en expliquer les mécanismes dans un instant.
Enfin, il est là. L'hebdomadaire que toutes les femmes attendaient. Jasmin. Jasmin, c'est un magazine complet. Chic et utile, impertinent et curieux, savant et frivole, tellement riche et si léger. Jasmin, c'est une promesse. Celle de ne jamais vous ennuyer. Actu, culture, people, mode, beauté, déco, voyage, cuisine. Achetez-le, vous verrez bien. Avec Jasmin, vous ne verrez plus jamais votre semaine comme avant. Chaque lundi, 2 euros seulement chez votre marchand de journaux.
Oui, bonjour, c'est Jupiter, l'appareil. Voilà, j'ai un problème. À chaque fois que je fais un éclair, je prends une décharge. Est-ce normal?
Sans doute un problème de surtension. On arrive tout de suite, monsieur Jupiter.
Chaque entreprise est exceptionnelle. Pendant les jours Pro Citroën, profitez de 2600 euros hors taxes de remise sur Berlingot VU avec airbag conducteur et direction assistée. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Remise non cumulable réservée aux professionnels dans le réseau participant jusqu'au 15 décembre, tarif général VU du 1er juillet.
Sol, 2004, San Francisco. Wendell, 1982, Haifa. Saadi, 1962, Toronto. Christina, Seconde Guerre mondiale, Munich. Quatre enfants, quatre générations, quatre destins, une seule famille traversée par l'histoire. Traversée par des lignes de faille. Ligne de faille, le nouveau roman de Nancy Huston, prix Femina 2006. Ligne de faille, aux éditions Actes Sud.
1664. Et Sindas et Synchrone pour 1664 petites bulles qui pétillent fines et légères. 1664 nuances dorées dans une robe jaune claire. Ou 1664 gouttes de fraîcheur qui coulent le long du verre.
1664, le grand numéro. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
On ne pouvait pas trouver un sujet qui soit plus dans l'air du temps. Nous parlons du climat aujourd'hui avec Jacques Pradel. Ouais.
Absolument. Alors, est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'il n'est pas trop tard? On va, Marie-Dieu de la Cour disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est assez anxiogène, comme disait les spécialistes, de parler de ça, mais on ne fait pas ces émissions par plaisir pour inquiéter nos concitoyens, même si c'est vrai que les titres qui sont choisis pour les livres et pour les films, enfin, Al Gore, c'est la grande, les vérités qui dérangent, votre livre, c'est la grande menace, le plein s'il vous plaît, ça sera, mais enfin, vous avez écrit d'autres livres avec des titres assez rentres dedans, Jean-Marc Jancovici. Ici, alors on va commencer tout de suite par faire un peu un état des lieux, parce que c'est pas la première fois qu'il y a un réchauffement dans l'histoire du climat de la planète. Il y a eu des glaciations, il y a eu des réchauffements. Alors beaucoup de gens se disent, mais pourquoi brutalement on s'interroge sur ce qui est en train de se passer? Ça pourrait être naturel. Alors pourquoi les spécialistes savent et pensent que ça n'est pas naturel? Depuis quand est-ce qu'on a découvert, entre guillemets, comme nous le dit Claude, qui est un éditeur qui nous appelle de Houdan dans les Yvelines, depuis quand découvre-t-on qu'il y a un réchauffement de la planète?
Alors en fait, il y a deux sous-questions là-dedans. C'est depuis quand sait-on que de rajouter du CO2 dans l'atmosphère augmente la température? Et la deuxième sous-question, c'est depuis quand est-ce qu'on est sûr que c'est bien l'homme qui est en train d'engendrer une élévation de température globale de la planète? Alors la première sous-question, c'est, on va dire, un siècle et demi. Ça fait un siècle et demi que trois physiciens, dont deux Français, ont dit il y a un effet de serre sur Terre. Cet effet de serre est lié à la quantité de vapeur d'eau et de gaz carbonique qu'il y a dans l'atmosphère. Et donc, logiquement, si on change la quantité de gaz carbonique qu'il y a dans l'atmosphère, ça change le climat. Mm-hmm. Il y avait notamment Fourier, dont le nom doit rappeler quelque
Charles
chose.
Fourier, l'utopiste
Joseph.
C'est à Joseph. Alors,
Joseph Fourier, le grand physicien.
Ah ben, je ne connais pas, moi. Vous voyez, mais je ne suis pas polytechnicien non plus, hein, comme vous.
Il y a des rues et des avenues Fourier un peu partout en France.
On croit tous que c'est Charles, en fait.
Absolument. Et puis il y a même une université, Joseph Fourier, à Grenoble, etc. Bon. Et puis il y a une deuxième sous-question. Ouais. Deuxième avancée. La première personne qui a calculé un ordre de grandeur qui était valable est un monsieur Arrhenius, il y a plus d'un siècle. Arrhenius a dit, si on double la quantité de CO2 dans l'air, la température moyenne de la planète augmente de 4 degrés. Voilà, Arrhenius, 1896.
D'accord, donc c'est pas le problème n'a pas été...
Arrhenius a été prix Nobel de chimie par ailleurs en 1903, ouais. C'est lui qui a caractérisé l'électrolyse, enfin je veux dire donc c'était quelqu'un de parfaitement respectable, il n'a pas utilisé une science écologiste qui aurait été inventée rien que pour ça.
Marie-Adile Delacour.
Mais j'ajouterais qu'on le savait, en tout cas certains le savaient, mais qu'il a fallu plus d'un siècle pour en prendre conscience, c'est-à-dire qu'en fait les scientifiques ont longtemps refusé, les scientifiques lambda ont longtemps refusé de l'admettre ça, et qu'en fait il y a à peine une dizaine d'années... Je dirais que le public en prend conscience.
Ouais, alors moi, je me dirais, quand vous dites ça, j'ai l'impression que les scientifiques ont commencé à découvrir le phénomène, mais qu'ils ont été, peut-être à cause de la rigueur scientifique, ils n'ont pas voulu tirer des conclusions en se lavant un peu les mains, en laissant les...
Il fallait que je complète ma réponse.
Avec une
deuxième chose qui est, depuis quand est-ce qu'on est capable de dire l'homme a très certainement une influence? Donc en fait, ce phénomène qu'on voyait, qu'on identifiait, Arrhenius avait aussi dit, la civilisation industrielle amènera un réchauffement du climat. Il l'avait dit, en 1896. Hein. La deuxième sous-question, c'est depuis quand est-ce qu'on est capable de dire sans homme, le climat ne se réchaufferait pas? Et ça, c'est quelques décennies. Donc c'est pas
Il ne se réchaufferait pas aussi vite. Parce qu'il pourrait se réchauffer.
Oui, il pourrait se réchauffer plus lentement. Par ailleurs, le climat, depuis 4 milliards d'années, varie. Il a toujours varié, il variera toujours. La question, c'est celle des rythmes d'évolution. Et je vais prendre un exemple tiré de la vie courante. Si vous rentrez dans un mur à 2 km/h et si vous y rentrez à 100 km/h, le résultat à l'arrivée n'est pas le même. Et dans les deux cas de figure, vous êtes rentré dans le mur. D'accord. Donc les vitesses d'évolution et les ordres de grandeur sont fondamentaux en ce qui concerne les conséquences.
D'accord.
Et la dernière chose qu'Arrhenius ne savait pas du tout, et ça c'est de la science très récente, c'est qu'est-ce que ça signifie pour la Terre d'avoir une moyenne qui varie de quelques degrés. Et ça, on a commencé à avoir des idées de la réponse il y a quelques dizaines d'années, tout au plus, quand on a commencé à faire des carottages dans les fonds océaniques.
Ouais, des carottages de glace, donc
Les carottages de glace, c'est encore plus récent. Ouais. Ça date de la fin des années 60, début des années 70. Ouais. Et je dirais, les plus belles consécrations là-dedans, ça date des années 90. D'accord. Donc ça, c'est de la science très récente.
Ouais. Et ce qu'on a tiré de ces analyses,
c'est que ce qui nous sépare d'une ère glaciaire, c'est 5 degrés. Voilà. Et là, on commence à comprendre l'ampleur du problème. On met la France en ère glaciaire. C'est simplement le thermostat planétaire baissé de 5 degrés.
D'accord.
Donc, quelques degrés de plus en un siècle, c'est un choc massif.
Dans l'autre sens.
Vous
nous parlez de glaciation alors que tout le monde s'inquiète
C'est une transition climatique en l'espace d'un siècle, alors que normalement, ça met 10 000 ans à se passer.
Alors, c'est ça qui est important, effectivement. Et alors, d'un mot là, et on continuera à en parler, Marie-Odile Delacour, sur ce réchauffement, on s'est aperçu donc clairement maintenant que l'ère industrielle a vraiment eu des conséquences sur le climat, ce que vous expliquez dans votre livre, et puis vous parlez du double jeu des forêts dans les
effets de
serre.
Parce qu'en fait, pour faire simple, les forêts absorbent du CO2, mais à un moment, elles le relâchent. Et pendant la canicule, en fait, après la canicule, il y a eu relâchement massif de CO2 dans l'atmosphère, donc aggravation de la situation.
Parce que l'idée, donc, c'est que, clairement, que le CO2 crée ce réchauffement, on verra comment et à la suite de quel mécanisme, mais qu'il y a des capteurs de CO2 qui le gardent, quoi, soit dans les océans, soit dans les forêts. Sauf que de temps en temps, les forêts, alors qu'on n'avait pas prévu forcément, rejette et donc augmente le phénomène en train de se produire. Alors on se retrouve, on fait une petite pause là, et puis on se retrouve dans un tout petit instant.
Charlotte, Juliette, Anne, Brune, ce sont des femmes comme vous et chaque jour elles se racontent. Retrouvez-les dans On se dit tout pour votre rendez-vous Être bien, être belle. Et connectez-vous dès maintenant sur europe1.fr.
Elle a été danseuse à la Comédie Française, mime avec Marcel Marceau, chanteuse de jazz au Playboy Club de Chicago.
Mais ça fait bien avoir un homme et une femme.
Nicole Croisille, c'est bien plus qu'une voix.
Merci de remarquer.
Pour la première fois, Nicole Croisille se raconte à Thierry Lecamp dans Je n'ai pas vu passer le temps, un livre d'édition Le Cherche Midi, un partenariat Europe 1.
Avec le programme de Fidélité Carrefour, vous bénéficiez de 40% d'économie sur le Coca-Cola Frigo Pack.
Très bien, ça c'est vraiment de la belle économie.
Ça, c'est top.
C'est quand même bien pratique dans le frigo.
Les économies, c'est comme le Coca-Cola.
Ah bon ?
Ça plaît à tout le monde.
Jusqu'au 18 novembre, avec le programme de Fidélité Carrefour, bénéficiez de 40% d'économie sur le Coca-Cola Frigo Pack 10 x 33 centilitres. 40%. Le programme de Fidélité Carrefour, le pouvoir de baisser les prix. Carrefour. Remise crédité sur votre compte Fidélité Carrefour ou à condition au magasin.
Carglass répare, Carglass remplace.
Laurent, chef d'équipe à Marignane.
Ma cliente là, c'est pas croyable les journées qu'elle passe. Entre son travail, les allers-retours à l'école, les repas à préparer et j'en passe, elle a pas une minute à elle. Et l'autre jour, la tuile. Elle passe en voiture sur un ralentisseur et là, crac ! Une fissure en plein sur son pare-brise. Elle voyait pas comment trouver une demi-journée pour aller le faire remplacer. C'était ingérable. Elle a directement appelé Carglass, un coup de fil, et c'était réglé. On lui a proposé le service à domicile. Je me suis déplacé chez elle. Oui, oui, chez elle. Ça l'arrangeait bien. Et elle a pu faire les devoirs avec ses enfants comme d'habitude, pendant que je remplaçais son pare-brise, par un pare-brise identique bien sûr. En plus, on a pris contact avec son assurance. Et comme elle était assurée Brise-Glace sans franchise, elle a rien payé. Rien payé. Normal, tout a été pris en charge par son assurance. Ma cliente, elle était aux anges. C'est top votre service à domicile Carglass.
Appelez le 0800 77 24 24. 0800 77 24 24. Comme 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Carglass répare. Carglass remplace.
Offre valable lorsque le service à domicile est pris en charge par votre assureur et aux heures d'ouverture des centres agréés.
Parlons-nous. Et nous parlons du climat et de ses menaces, Jacques Trevel.
Oui, donc je rappelle avec Marie-Odile Delacour, qui est l'auteur d'un livre que je recommande vraiment très vivement, Climat, la grande menace, parce qu'on comprend vraiment les données du problème. Ça vient de sortir dans une toute nouvelle collection qui s'appelle Les Carnets de l'Info aux éditions Scrinéo. Et puis Jean-Marc Jancovici, qui intervient depuis plusieurs années sur ces problèmes de réchauffement climatique et aussi sur le problème de l'énergie. Le plein, s'il vous plaît, donc un livre qui vient de paraître aux éditions du Seuil, et un livre qui propose, on y viendra tout à l'heure, dans cette cure de désintoxication qu'on évoquait au début de l'émission, vous dites on est drogué à l'énergie, au pétrole, donc il faut que taxer le pétrole, il faut une taxe sur le pétrole, le litre d'essence, et le prix du litre d'essence est ridiculement bas. Alors ça fait bondir beaucoup de gens, hein, Jean-Marc Jancovici, vous le savez, donc ça on en parlera tout à l'heure. Mais restons sur l'analyse de ce qui se passe et les mécanismes. Alors Marie-Odile Delacour, je vous ai un peu interrompu un instant, donc il y a ces rejets de gaz carbonique dans l'atmosphère. Qu'est-ce qui se passe après et pourquoi l'homme a fait en 200 ans ce que la nature met 10 000 ans à faire, comme le disait Jean-Marc Jancovici un instant?
Qu'est-ce qui se passe après, c'est-à-dire
comment se fait-il que le phénomène se soit emballé de cette manière? Comment on l'explique, ça?
La Terre s'est réchauffée plus rapidement que jamais depuis 20 000 ans. La France a pris 1 degré en moyenne en plus de température. Le CO2 a augmenté de 27% ces dernières années plus rapidement que depuis 650 000 ans. C'est ce que dit magnifiquement Al Gore dans son film, où on le voit grimper sur un petit élévateur et on a l'impression qu'il va s'en aller vers le ciel, tellement la courbe de carbone est élevée. Donc ça c'est donc parce qu'on parlait de l'effet de serre tout à l'heure, il faut quand même savoir que l'effet de serre c'est naturel et c'est nécessaire, ça nous protège des radiations solaires.
Vous dites dans votre livre, s'il n'y avait pas d'effet de serre, il n'y aurait pas de vie.
Voilà.
Il ferait moins 15 sur toute la planète s'il n'y avait pas d'effet de serre.
C'est ça. Donc, il est donc nécessaire, mais là les GES, les gaz à effet de serre sont tellement concentrés que maintenant les conséquences sont donc un dérèglement du climat. Je fais appel aux spécialistes là pour m'aider à définir, parce que moi je ne suis pas une spécialiste, je suis une vulgarisatrice.
Absolument, oui. Mais alors expliquez-nous Jean-Marc Jancovici de façon simple et claire ce qui se passe. Attendez, oui, c'est effectivement une question un peu difficile quand même.
Non, pas tellement en fait. D'abord il y a une chose avant de répondre à la question sur laquelle il est essentiel de rappeler, c'est que le problème il est majoritairement devant nous et pas derrière nous. En d'autres termes, ce qu'on a constaté jusqu'à maintenant, c'est un réchauffement, mais c'est pas un problème. En d'autres termes, la date des vendanges a avancé de 3 semaines, très bien, ça empêche personne de vivre. On en est au stade où l'effet est observable, mais n'est pas un problème majeur. Le problème majeur, il est devant nous. Si on continue sur la même trajectoire, c'est ça qu'il faut bien comprendre. J'insiste lourdement là-dessus parce que c'est pas à vous que je vais apprendre que c'est beaucoup plus facile à vos confrères de braquer une caméra de télévision sur ce qu'on a déjà vu que sur ce qu'on pourrait voir plus tard.
Bah oui, par la force des choses. C'est pas ce qui va se passer.
Non, mais en plus, exactement, ça dépend de tas de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire circuler de l'information sur ce qui est déjà constaté que sur ce qui risque de nous arriver plus tard, alors que le vrai problème est dans ce qui risque de nous arriver plus tard.
Voilà,
c'est là-dessus que je voulais insister. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous l'avez dit, donc il y a des émissions de gaz carbonique, en fait, de CO2, qui ont augmenté de plus en plus vite. Ouais. Alors, pour le moment, la nature a le bon goût de passer l'éponge derrière la moitié de nos émissions, à peu près, qu'elle se charge de remettre pour partie dans l'océan. Mais ça pose un problème, parce que ça l'acidifie, et on en parlera peut-être plus tard dans cette émission.
Ouais.
Et dans les écosystèmes, dans ce qu'on appelle les écosystèmes continentaux, donc notamment les forêts, où, pour le moment, on stocke en accroissant la quantité de carbone qu'il y a soit dans la biomasse, c'est-à-dire les arbres sur pied, soit dans le sol. Mais cette absorption, elle pourrait ne pas durer indéfiniment, notamment dans tout ce qui est forêt et écosystème, parce que si le climat se dérègle suffisamment, les forêts se portent mal, donc les arbres photosynthétisent mal, les plantes photosynthétisent mal, donc l'absorption baisse, et dans le même temps, le carbone qu'il y a dans le sol, lui, il repart à vitesse accélérée vers l'atmosphère, parce que plus il fait chaud, plus ça se décompose vite.
D'accord.
Et en fait, c'est exactement ce que Marie-Adile de la Cour disait tout à l'heure. En 2003, l'année de la première canicule, parce que maintenant il va falloir leur donner un numéro, y a les écosystèmes européens ont déstocké du CO2 et n'en ont pas stocké. Ce qui fait qu'en 2003, on a eu comme source de CO2 en Europe les chaudières, les voitures, les usines et les arbres.
Ouais.
Enfin, plus exactement, les écosystèmes naturels.
Ouais.
On a eu tout ça.
Ouais. Et alors, Marie-Adile Delacour, dans votre livre, puisque c'est justement, encore une fois, un livre de journaliste, et c'est bien que ce soit un journaliste, une journaliste qui ait affronté ces problèmes, parce qu'il n'y a rien de tel pour mieux raconter à ceux qui vont vous lire, vous dites que le problème se complique du fait que les scientifiques n'ont pas eu vraiment tous les outils à leur disposition pour faire des modèles. Vous parlez dans votre livre d'un super simulateur au Japon, une terre virtuelle, que les Japonais ont réussi à mettre sur pied.
Ils ont inventé une espèce de super simulateur pour essayer de faire comprendre, enfin essayer de comprendre les en labo, en quelque sorte, pour être simple.
Si on touche à ça, qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans,
toutes les conséquences de ces nouveaux phénomènes. Moi, c'est ce qui m'a frappé en travaillant sur ce sujet à la demande de Jean-Paul Arif et de Véronique Aganouer, là, de Scrinéo, c'est que à quel point les scientifiques étaient en fait un peu inquiétants, de mon point de vue, que Jean Covici me pardonne, parce qu'en fait, ils sont tellement sectorisés et segmentarisés dans leur manière de voir le monde que quand on s'intéresse au climat, en fait, on découvre qu'il y a une vision globale à avoir que n'a pas la science, que n'a pas le système scientifique.
Et le système scientifique qui ne peut pas faire de prédiction. Vous dites qu'ils ne peuvent pas faire de prédiction, alors ils font des scénarios.
C'est ça.
Et c'est là où, justement, vous dites les scénarios, ils sont vraiment catastrophes.
Il y a une part d'incertitude. Alors, on peut jouer avec scénario et manipuler l'opinion facilement. On peut augmenter l'inquiétude ou au contraire l'apaiser. Donc c'est ça. Ma vraie inquiétude, c'est ça. Où est la vérité dans tout ça?
Alors peut-être un mot, Jean-Marc Jancovici, s'il vous plaît.
Il faut quand même rappeler comment fonctionne la science et quel est son carnet de route.
Oui.
Qu'est-ce qu'on demande finalement aux scientifiques? On ne leur demande pas de prendre des décisions à la place des politiques et on ne leur demande surtout pas de prendre des décisions à la place des consommateurs, que nous sommes tous. On leur demande d'éclairer le débat. Et c'est très exactement ce qu'ils font dans cette affaire. Par ailleurs, il est vrai que les scientifiques sont tous des spécialistes. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas un scientifique pris isolément qui soit capable de vous raconter l'histoire du début à la fin, et les climats du passé, et la modélisation, et la manière dont fonctionne le cycle du carbone, et les rudiments d'économie, etc. Ça n'existe pas, ça.
Donc il faut une approche multidisciplinaire.
Oui, mais cette approche existe, et c'est bien pour ça qu'a été créé un organisme qui s'appelle le GIEC, dont on parlera peut-être plus tard.
C'est un organisme qui dépend de l'ONU.
Alors c'est une sous-agence des Nations Unies. En fait c'est un joint venture entre les Nations Unies et l'Organisation Météorologique Mondiale, qui est même une agence onusienne. Et cet organisme, il a en charge de faire quelque chose qui devrait vous parler, c'est une revue de presse. Mais une revue de presse très particulière qui se borne à la littérature scientifique. Donc les gens qui travaillent pour les rapports du GIEC disent, je passe en revue tout ce qui se publie dans la littérature scientifique sur la question de l'influence de l'homme sur le climat. Et j'essaye de dégager en 800 pages et en anglais, et c'est là qu'on tombe sur le problème de la vulgarisation, les grandes lignes de ce qu'on peut dire et ne pas dire sur
l'état des lieux.
Alors, et le problème à ce moment, il est de passer de ce rapport en anglais de 800 pages, que malheureusement quasiment aucun de vos confrères n'a le temps de lire, à quelque chose qui soit compréhensible par le grand public, c'est-à-dire qu'on retrouve dans les pages de journaux. Et je dirais que la difficulté majeure de l'exercice est beaucoup plus là que dans le fait d'organiser la communauté scientifique pour qu'ils arrivent à dire quelque chose.
D'accord. Marie-Louise Delacour.
Ce que je trouvais intéressant dans le GIEC, c'est qu'en fait, il y a 2000 chercheurs du monde entier, des États-Unis, en Inde, les Japonais, les Chinois, et ce qu'on verra en Europe. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est la première fois, dans le fond, l'inquiétude de l'évolution du climat a forcé les hommes à se réunir au point de vue, à former une mondialisation de l'observation. Et ça, je trouve ça un point positif de la situation actuelle.
Ouais. Alors, on se retrouve dans un tout petit instant, 01 42 32 15 15 pour vos questions, vos réactions, vos témoignages. Europe1.fr si vous êtes sur internet, et là on essaiera peut-être de parler aussi des solutions, de qui détient les clés des solutions. J'ai découvert, je crois que c'est dans votre livre, Marie-Odile Delacour, que les décideurs politiques sont, d'après vous en tout cas, aussi peu informés que le grand public.
C'est un peu mon avis.
Et un peu moins informés que les chefs d'entreprise. Donc ça, on reviendra là-dessus dans un petit instant.
Le journal Elle présente trois compilations avec les plus belles voix féminines. De Nina Simone à Cass Power, de Billie Holiday à Carla Bruni et de Dalida à Olivia Ruiz. Éternelle, rebelle, sensuelle. Trois compilations exceptionnelles pour Elle, déjà disponibles.
Ah bah tiens, je vous invite à prendre un verre chez moi ce soir.
Pas question, vous m'aurez pu.
Pourquoi ça?
La dernière fois, vous croyez que j'ai pas vu votre regard réprobateur lorsque j'ai posé mon verre sur votre petite table cirée, là?
Oui, mais ça risquait de faire un rond.
Alors que chez Monsieur Bricolage, on vous aurait conseillé un vernis haute résistance, parce que c'est bien gentil d'inviter des gens, mais s'ils doivent risquer la tendinite en gardant leur verre toute la soirée à la main, moi je dis, c'est pas la peine.
Bah oui, mais...
Jusqu'au 25 novembre, le vernis polyuréthane aspect bois ciré haute résistance est à 16,50€ le bidon de 1 litre. Monsieur Bricolage, on peut compter sur lui.
Quand la vieille femme au nez crochu insista pour lui offrir sa pomme, Blanche-Neige lui annonça qu'elle venait de se faire les ongles avec un sublime vernis vermillon d'une grande marque de produits de beauté, comme son nouveau rouge à lèvres assorti, et que, par conséquent, sa pomme, elle pouvait se la garder.
La vie est tellement plus belle avec les produits de beauté des grandes marques. Découvrez-les chez votre parfumeur conseil.
Monsieur,
oui?
Pincez-moi.
Comment?
Ben c'est moi! Depuis que je suis entré dans ce magasin, je vois des petits prix à moins de 1 euro, moins de 2 euros partout, et en plus des très bonnes affaires. Je dois arrêter, alors pincez-moi! Aïe! Oh, doucement! Oh, bah tout de même, regardez le bleu que vous m'avez fait.
L'opération tout petit prix euro, c'est du 14 au 25 novembre.
Les magasins U, les nouveaux commerçants.
Dis donc, Paul.
Ouais.
Le nouveau, là.
Ouais.
Il a planté 3 livraisons, pété la meuleuse et perdu la foreuse.
Oh là!
Bah je me disais, vu que c'est une vraie charge, on pourrait peut-être le déduire.
Eh oui, en France, on ne fait pas de cadeaux aux entrepreneurs, sauf chez Fiat Utilitaire. En cette fin d'année, découvrez le nouveau Ducato à partir de 15 900 euros hors taxes pour des charges vraiment très, très, très utiles.
Fiat Utilitaire, à chaque entrepreneur, sous Fiat. Tarif au 1er juillet de Ducato Fourgon Tourlé 3.0 CH1, 2 points de multijet pack. Offre jusqu'au 30 décembre, réservée professionnelle chez les distributeurs participants.
Jusqu'au 25 novembre, chez Monsieur Bricolage, le revêtement de sol stratifié en panneau HDF standard, épaisseur 7 mm, clipsable, classe 2331, est à 4,85€ le mètre carré. Monsieur Bricolage, on peut compter sur lui.
Et on retrouve Jacques Tardel et ses invités, Marie-Odile Delacour, qui est journaliste indépendante, et Jean-Marc Jancovici, qui est ingénieur conseil spécialiste de l'énergie et du climat.
Oui, alors c'est vrai donc, Jean-Marc Jancovici, d'après vous, les politiques sont, sinon moins informés que le grand public, au moins aussi mal informés, et que les chefs d'entreprise le sont plus que les élus?
Alors, mon expérience, c'est que les élus sont pas mieux informés que leurs électeurs. Quand vous regardez à quoi ressemble l'agenda d'un élu sur une journée, vous vous rendez compte qu'il n'a absolument pas le temps de lire quelques centaines de pages pour comprendre comment le système fonctionne, sauf si il fait partie de la mission spécialiste qui a été... Donc voilà, donc à l'Assemblée nationale, vous allez trouver deux ou trois bons experts du sujet, vous allez trouver une dizaine de personnes qui sont très bien acculturées sur le sujet, et puis le reste, ils savent ce qu'ils ont lu dans le journal, et quand la mission d'information sur l'effet de serre a fait son rapport, et bien les autres, ils en savent ce qu'ils ont lu dans le journal suite au communiqué de presse fait par la mission. Voilà, c'est à peu près ça leur niveau d'information. Donc il ne faut pas que les gens qui votent s'imaginent que pour le moment, les gens qu'ils font sortir des urnes, et ça vaut notamment pour la majeure partie des candidats qui vont se présenter devant vos suffrages dans pas longtemps, surtout aux législatives, il ne faut pas s'imaginer qu'ils en savent plus qu'eux sur le sujet.
Ouais. Et la difficulté pour des élus, c'est de prendre des décisions contraignantes qui n'auront pas bonne presse et dont on ne verra les effets que très longtemps après.
Oui, cela étant, l'histoire montre que quand le degré de sensibilisation devient suffisant, la contrainte est acceptée. Ça fait un certain temps qu'on vous parle des méfaits du tabac et donc majoritairement les gens comprennent qu'on monte le prix des cigarettes. Ça fait un certain temps qu'on vous parle de la congestion en ville, donc majoritairement on accepte l'idée que le stationnement soit payant, etc. Donc il y a quand même un certain nombre de nouvelles contraintes. C'est-à-dire le stationnement payant, il y a quelques décennies, on aurait dit à n'importe quel élu qu'il était fou, qu'il allait sauter. Aujourd'hui, c'est partout.
D'accord.
Donc l'idée qu'on ne puisse pas mettre une nouvelle contrainte, je ne pense pas que ce soit vrai. C'est très fortement conditionné au fait que les gens sachent pourquoi cette contrainte a un sens.
Alors, Marie-Zille de la Cour, évidemment, un des chapitres les plus importants de votre livre, c'est celui qui s'intitule « Y a-t-il des solutions ?» Et vous passez en revue les solutions qui qui sont envisagées et même celles qui commencent à être mises en œuvre, avec ce constat d'ailleurs que 20% des pays seulement sont responsables de 80%, alors vous dites, de la pollution de la planète, et dans la pollution il faut comprendre aussi le réchauffement, hein, c'est pas la même, la même chose. Alors quelles sont les solutions qui sont envisagées?
Alors d'un point de vue industriel, y a, heureusement pour nous, il y a quand même un certain nombre de chercheurs qui ont planché sur la question depuis déjà un moment. Donc par exemple, le CO2, pour éviter qu'il s'en aille dans les airs, certains industriels ont pensé qu'on pouvait l'enfouir. Mmh. Donc l'une des solutions, c'est l'enfouissement du CO2, c'est ce qui commence déjà à être fait ici ou là. Mmh. Évidemment, on peut imaginer que ça pose d'énormes problèmes de stockage, d'espace et financiers.
Mmh. Hein, mais on réinjecte, alors par exemple, il y a des industriels, ils ont un capteur de CO2 et ils réinjectent dans le sol.
C'est
ça se fait déjà, ça.
Mais c'est ça.
Prototype.
Ouais, en prototype.
Précisons.
Bon, mais enfin, c'est mieux.
Alors il y a la fameuse solution qui a été prônée à Kyoto sur les crédits d'émission, hein, c'est-à-dire que, pour être simple, les pays pollueurs partagent leur crédit avec les pays non pollueurs, ouais. Donc c'est un échange économique. Ouais. À mon avis, jusqu'à présent, ça n'a pas encore tellement bien fonctionné. On a été un peu déçus par les premiers résultats, mais ça devrait se mettre en place, je ne sais pas ce qu'on pense. Jean-Marc, ouais.
Si on peut s'arrêter deux secondes là-dessus, parce que ça n'a pas très bonne presse auprès du grand public, parce qu'on se dit finalement... On achète le droit de polluer à d'autres...
Mais on achète tous le droit de polluer. Dès que vous payez une taxe pour l'enlèvement des ordures ménagères, vous achetez un droit de polluer. Dès que vous passez à la pompe, prendre un litre d'essence, vous achetez un droit de polluer.
Qu'est-ce que ça ajoute, alors, cette histoire de bourse des
Alors, en fait, la bourse,
c'est
la partie visible. Il faut bien voir que le système des quotas négociables, parce que c'est ça son vrai nom, est en fait un système de tickets de rationnement négociables. Et alors là, le grand public trouvera que c'est beaucoup moins doux pour les industriels. Le principe, c'est qu'on vous rationne au début. On vous dit, vous avez le droit d'émettre tant. Et si le droit
à qui
aux industriels, à un certain nombre de gros industriels, ça concerne en Europe essentiellement les centrales. Alors ça va concerner avant toute chose les centrales électriques qui fonctionnent avec du gaz et du charbon. Mm-hmm. Parce qu'il faut savoir que si la France a la chance, de mon point de vue, d'avoir du nucléaire et de l'hydroélectricité qui ne font pas de CO2, mm-hmm. L'essentiel des pays développés font la grosse partie de leur électricité en brûlant du gaz et du charbon.
Ouais.
Et
ça fait du CO2. Plus 50% aux États-Unis.
Plus 50% aux États-Unis. Ouais. Le charbon, c'est majeur aux États-Unis. Mm-hmm. Hein. Ils ont par ailleurs un quart des réserves mondiales.
Ouais.
Donc le
Alors on dit à ces gens-là, on dit quoi?
Alors on leur dit, voilà, vous avez le droit d'émettre tant dans l'année, pas mmh. plus, mmh. et si vous émettez en pratique plus que le droit qu'on vous a donné, eh bien il faut acheter le supplément à quelqu'un d'autre qui n'aura pas utilisé la totalité de ce qu'on lui a donné comme droit. Mmh. D'accord? Donc au début
quelqu'un
de la partie...
d'autre dans un autre pays ou dans le même pays?
Non, alors là, quelqu'un d'autre, c'est en l'occurrence, c'est en Europe, parce que ce système fonctionne actuellement en Europe. Donc vous êtes une centrale électrique européenne à charbon,
mmh.
Vous émettez plus que ce qu'on vous avait donné le droit d'émettre, et bien il faut trouver un autre acteur du système, il y en a à peu près 10 000 en Europe, qui lui n'a pas utilisé le droit qu'on lui donnait en totalité, parce qu'il a fait moins d'électricité que ce qu'il pensait, parce que si c'est un chimiste, il a fait moins de produits chimiques que ce qu'il pensait, mmh. parce que ses ingénieurs ont trouvé l'autre truc qui permettait d'émettre un peu moins, etc.
D'accord.
Et à ce moment, vous lui achetez à lui les émissions qu'il n'a pas utilisées. Et si vous êtes incapable d'acheter les émissions à quelqu'un, mm-hmm. parce que tout le monde a utilisé, etc., on vous colle une prune.
D'accord.
Donc c'est pas du tout un système qui est laxiste dans l'esprit.
Ouais.
Et le diable est dans le détail, c'est-à-dire dans l'autorisation initiale qu'on vous a donnée.
Donc ça, c'est quelque chose de concret qui a été mis en œuvre avec des résultats dont on parlera peut-être tout à l'heure. Je ne sais pas si ça existe depuis suffisamment longtemps pour qu'on voit qu'il y a eu des résultats.
Notez que les particuliers seraient aujourd'hui parfaitement réticents à avoir exactement le même genre de contraintes. C'est-à-dire que l'État vous dit au début de l'année, vous avez le droit d'utiliser tant de litres d'essence et tant de mètres cubes de gaz, pointe à la ligne. Je pense que les gens descendent dans la rue. Or, c'est exactement ça qu'on demande aux industriels.
Hein.
Donc c'est pas un système. Le terme droit de polluer a été, à mon avis, un terme parfaitement à contre-emploi.
D'accord. Alors, Marie-Dille Delacour, vous continuez votre tour d'horizon de ce qu'on pourrait faire pour les... Et il y a le solaire.
Oui, bien sûr.
En particulier. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Parce qu'il y a pas mal de gens qui nous parlent du solaire en disant, mais est-ce que vraiment c'est de nature à économiser de façon significative?
Pour certains spécialistes, c'est vraiment l'une des énergies alternatives, au niveau en tout cas des citoyens et de l'industrie, très très positive.
Ouais.
Seulement, ça demande... Ça pose aussi des problèmes. Il n'y a pas de solution idéale, hein, on s'en doute bien. Chaque solution demande des adaptations et des réorientations économiques très très lourdes. Hein.
Ouais.
On est quand même dans une situation un peu délicate où il va falloir faire des choix économiques profonds.
Ouais.
Alors, évidemment, il y a aussi la biomasse.
Ouais.
La biomasse, c'est donc d'entretenir les forêts de manière saine à ce qu'elles ne rejettent pas de CO2, mais qu'on puisse utiliser l'énergie bois.
Ouais. Ça veut dire que si on brûle du bois il faut planter des arbres, voilà. Pour, parce que sinon, s'il y a un déséquilibre, eh ben, on obtiendra la même chose qu'avec d'autres énergies fossiles qu'on brûle.
Voilà.
D'accord.
Il y a une autre solution qui a pas mal de succès, c'est la pile à combustible, la fameuse pile à combustible, qui a du succès en tout cas dans les esprits, pas encore hein, vraiment en réalité, qui plaît beaucoup parce qu'on a l'impression qu'on va pouvoir continuer à fonctionner de la même manière avec une autre source d'énergie.
C'est ça. Et ça, c'est l'hydrogène, la pile d'hydrogène, c'est
voilà,
la même
c'est
chose.
Ça,
hein.
C'est ça.
C'est ça. Mais elle... dans le livre de Jokovici que l'hydrogène fuit d'abord, c'est le produit qui fuit le plus.
Et surtout, il faut le faire.
Et il faut le faire.
Et pour le fabriquer, on utilise du CO2.
Voilà, on en émet. On émet énormément de CO2 pour faire l'hydrogène.
Donc on voit que le problème a tendance à se mordre la queue, et comme le dit vient de le dire très bien Marie-Dille de la Cour, c'est que tout ça, finalement, sont des solutions, mais qu'on envisage dans l'idée de préserver notre intoxication. On va y venir dans un instant. On est toujours drogué, en tout cas à l'énergie, au déplacement, à la vitesse, et on veut rien changer, mais on se dit, les scientifiques vont nous trouver quelque chose qui va sauver la mise à tout le monde. Or là, on peut dire que d'un mot, hein, que c'est pas vraiment le cas.
Non, je voulais juste faire une petite remarque sur la géo-ingénierie que j'ai découvert l'autre jour dans un numéro spécial de Courrier International. Ouais. Alors, ce sont des systèmes qui paraissent complètement fous pour essayer de diminuer les émissions des rayons solaires. Alors, par exemple, on peut mettre sur orbite des parasols géants entre la Terre et le Soleil. On met aussi en orbite des petites lentilles, des milliers de petites lentilles pour dévier le rayonnement solaire. Ou alors, on peut encore vaporiser de l'eau de mer dans les nuages à basse altitude. Enfin, il y a des tas ou des films qui réfléchissent la lumière, ou des îles en plastique blanc sur les océans. Vous voyez, il y a pour l'instant des poètes qui commencent à réfléchir à la question, mais scientifiquement, je crois que ce n'est pas encore au point.
Voilà, alors on va en venir aux décisions qui font mal, hein, et parce que changer les mentalités, c'est changer également notre manière de vivre. Alors, est-ce que c'est possible? Comment ça pourrait se passer? Je vais vous demander à tous les deux de nous donner des exemples, et on commencera dans un instant par cette taxe sur le pétrole que développe l'idée que développe donc Jean-Marc Jancovici dans son livre avec Alain Grandjean, Le Plein, s'il vous plaît.
Télé C'est toujours présent.
Je me prénomme Micheline, j'ai 30 ans des poussières.
Les petites annonces d'Elysée Moon, l'intégrale. Retrouvez tous les personnages d'Elysée Moon en DVD.
Si tu es blonde, jette à forte poitrine, ça m'intéresse aussi.
L'intégrale des petites annonces d'Elysée Moon avec Télé 7 jours au prix exceptionnel de 5,95€ chez votre marchand de journaux.
Ils vont faire quoi ces gens dans votre sous-sol?
Nous les avons contactés pour qu'ils nous installent le gaz naturel pour le chauffage.
Le gaz naturel? Mais vous avez perdu la tête.
Mais non.
Mais si.
Mais non.
Mais si.
Mais non.
Mais si.
Mais non.
Ah bon?
Oui. Le gaz naturel est de loin l'énergie la plus confortable.
Ah bon?
Absolument. Le gaz naturel est économique et confortable, mais c'est aussi une énergie qui respecte l'environnement.
Ah bon?
Mais oui. Allez vérifier sur gazdefrance.fr.
Gaz de France, une énergie durable entre nous.
Et le Grand Prix de médecine 2036 sera décerné au professeur Laurent Mathieu pour le vaccin contre le virus HIV.
Ce sera vraiment un très grand honneur et un très grand plaisir pour moi. Merci.
Faire progresser les enfants, s'impliquer auprès d'eux. Academia, on croit au potentiel de chaque enfant. Contactez-nous au 0810 10 15 20, près d'un appel local.
Leclerc, notre combat, votre pouvoir d'achat.
Philippe, je t'ai pris des infusions.
Je t'ai demandé ça, moi?
Non, mais dorénavant, avant de te coucher, je te préparerai une petite infusion.
Ah bon?
Ça détend, ça réchauffe, ça fait du bien.
Je vais bien.
Mais alors, il y a 20% de tickets Leclerc sur toute la gamme de la tisanière. Alors je t'ai pris un petit assortiment.
Ah bah alors, allons-y pour l'assortiment.
Jusqu'au 18 novembre, économisez 20% de tickets Leclerc sur présentation de votre carte Leclerc en achetant des produits de la gamme de la tisanière. Pour modalité d'un magasin participant.
Alors, bien dormi?
Oui, je me suis levé une fois ou deux.
Pardon?
Non, rien.
Ce sont des femmes comme vous et chaque jour elles se racontent. Tout à l'heure, retrouvez-les dans la rubrique On se dit tout pour un premier rendez-vous juste avant 10h. Ce rendez-vous s'intitule Être bien, être belle. Il n'est pas trop tard pour réagir contre les menaces.
Alors, c'est que déjà, à plusieurs reprises depuis le début de l'émission, on évoque cette taxe sur le pétrole et le fait que Jean-Marc Jancovici développe cette idée dans son livre en disant le pétrole n'est pas au prix, il est vraiment bradé et il devrait valoir beaucoup, beaucoup plus cher. Avant de vous laisser développer, la tonalité de ceux qui vous écoutent, hein, et notamment enfin parmi les auditeurs, Jean-Pierre qui dit je suis furieux de cette proposition dont j'ai entendu parler au début de l'émission, augmenter le prix du litre d'essence. J'habite un village à 38 km de mon lieu de travail, il n'y a pas de desserve rail ou bus, qu'est-ce que je dois faire? Vendre ma maison, loger à l'hôtel, acheter une seconde maison? Je suis prêt à faire ma part d'écolo en achetant le chauffage solaire, économiser de toutes parts, acheter une voiture écolo, mais il n'y en a pas en France. Beaucoup des gens qui donnent des idées, des solutions, des prérogatives doivent apparemment loger sur leur lieu de travail ou bien ils n'appliquent pas ce qu'ils disent.
Alors, il y a plusieurs choses à répondre. La première, c'est qu'il est évident que la proposition qu'on fait fera grincer des dents. Maintenant, il faut voir que de ne pas agir en fera grincer encore plus. Il y a un économiste, un ancien économiste en chef de la Banque mondiale, qui a rendu un rapport à Tony Blair il n'y a pas très longtemps, dans lequel il dit « ne pas agir va causer des troubles économiques majeurs ». Des troubles économiques majeurs, on sait ce que ça veut dire du chômage en masse. Et par ailleurs, il n'y a pas d'action sans donner un prix au problème. Et la taxe sur, pas seulement le pétrole, le gaz, le charbon, en fait tout ce qui fait du CO2, hein, toutes les émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on a appelé la taxe carbone. La
taxe carbone qu'on retrouve dans le livre de Nicolas Hulot dont on vient de parler.
Absolument, et c'est pas tout à fait un hasard, est un moyen de donner un prix au problème, et je ne connais pas une personne qui se soit penchée un peu longuement dans cette affaire, quelle que soit sa formation initiale, qui n'en ressorte pas avec cette conclusion. Quand Al Gore est passé aux 20h de France 2, là, le jour où son film a été projeté aux députés, avant que la très mauvaise traduction simultanée ne se charge de ce personnage, Pujadas lui a demandé quelle est la première chose à faire si les États ne devaient faire qu'une chose, qu'est-ce qu'ils doivent faire à votre avis? Et il a répondu en anglais, donner un prix au carbone. Voilà. Et c'est une évidence pour tous les gens qui se sont penchés dessus. Alors oui.
Alors, la conséquence, c'est quoi dans la vie quotidienne des gens, là?
Alors, la conséquence, c'est que la mobilité qu'on connaît aujourd'hui n'est pas durable. Donc l'idée qu'on va pouvoir trouver un machin poète-poète technique qui va permettre aux gens de conserver une voiture d'une tonne par adulte en âge de conduire au même prix, c'est-à-dire pour 16% de votre temps de travail, c'est une chimère. D'accord. Il faut qu'on se fasse à cette idée, exactement comme il faut se faire à l'idée que vous ne pouvez pas fumer 3 paquets de gitane par jour et mourir à 150 ans avec les poumons en parfait état. Voilà, c'est comme ça. Non mais c'est exactement la même chose. Je ne connais pas un ingénieur non plus qui sache à grands coups de, etc. La deuxième chose qu'il faut qu'on voit, c'est que le climat n'est que la partie aval d'un problème qui a aussi sa partie amont, c'est que les ressources fossiles ne sont pas infinies. Et quand vous demandez aujourd'hui aux opérateurs pétroliers pour combien de temps est-ce qu'on a encore du pétrole en quantité croissante, parce que c'est ça qui assure l'équilibre dynamique de la planète aujourd'hui, économique, ils vous disent 10-15 ans. Voilà. Donc question, si on ne monte pas volontairement les prix pour le consommateur, ce qui est de l'argent qu'on garde en France, hein, il faut bien savoir que les impôts c'est de l'argent qu'on garde en France, qu'est-ce qu'on risque? On risque des chocs massifs de marché avec de l'argent qui part à vitesse accélérée chez les autres à ce moment-là, puisqu'on importe 99% de notre pétrole, et ça provoquera, ou ça a toutes les chances de provoquer une récession massive.
Donc ce que vous dites là, c'est le litre d'essence à 10 euros
Non, ce que je dis c'est qu'il faut augmenter graduellement le prix tous les ans. L'idée c'est qu'on met une taxe progressive, donc l'idée c'est que chaque année vous allez payer
plus que celle qu'on dit sur le carburant.
Absolument,
sur le
parce qu'on en revenait à l'essence n'est pas chère. Il faut bien voir que l'essence aujourd'hui vaut 1000 fois moins cher que le travail humain qu'elle remplace. D'accord. Chaque personne qui a une voiture, qu'il essaye de voir le nombre de bonhommes qu'il faudrait qu'il attelle devant sa voiture pour aller à la même vitesse, et vous avez tout de suite une idée. Mais c'est exactement
bien
ça.
Sûr.
Donc ça ne vaut rien aujourd'hui l'énergie fossile, ça vaut 1000 fois moins cher que le travail que ça remplace.
Mais la réflexion de l'auditeur, là, il habite à 38 km de son lieu de travail. Si vous lui mettez le litre d'essence à 10 euros...
Non, pas à 10 euros. Il faut augmenter le prix du litre d'essence de l'ordre de 8 à 10 centimes tous les ans. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et cet auditeur va se dire, aïe, ça va monter, donc je vais chercher à acheter la voiture la plus petite possible. Et comme les constructeurs sauront qu'il y a de plus en plus de gens qui vont raisonner de cette manière-là, alors ils vous proposeront des voitures à 2 litres au 100, qui effectivement ne feront plus du 160, elles feront peut-être du 120, mais enfin moi, vous savez, j'ai appris à conduire dans une 2 chevaux, c'est pas l'époque de ma vie où j'étais plus malheureux. Donc, on continuera à avoir des voitures, sauf qu'elles seront plus petites, moins puissantes, etc. Donc on pourra continuer à habiter à 30 km de son lieu de travail pour un certain nombre de gens qui effectivement ne peuvent pas déménager la semaine prochaine.
D'accord. Et donc, c'est pas une mesure qui est de nature à créer justement un chômage de
masse,
à renchérir, parce que le pétrole est partout, et Marie-Odile de la Cour, dans votre livre, vous nous le faites remarquer, c'est tous les secteurs de l'économie où intervient le pétrole, auxquels on ne pense pas toujours forcément, mais le plastique c'est du pétrole, enfin il y a énormément de choses.
Il y a du pétrole partout.
Il y a du pétrole partout, donc ça veut dire...
Il y a même du pétrole dans votre métier, parce que, absolument, parce que c'est l'énergie abondante qui a permis de passer progressivement d'un pays où il y avait 95% de paysans, qui, ça c'était il y a 2 siècles, qui nourrissaient 5% de la population qui n'était pas au champ, d'accord, et on est passé un système dans lequel 3% de la population nourrissent 97% de gens qui sont autre chose, consultants inutiles comme moi, animateurs de radio, etc. Et ce système-là nécessite d'avoir une énergie abondante et à bas prix. Donc on ne s'en rend pas compte, mais dans toute la structuration de la société moderne, ça y est.
Alors on se retrouve dans un petit instant, 01 42 32 15 15, pour toutes vos questions.
Ce sont des femmes comme vous et chaque jour, elles se racontent. Aujourd'hui, Coralie, 42 ans, guide.
Voilà, la sculpture a beaucoup joué avec la nature et la culture a beaucoup sublimé la nature. Dans la lingerie, il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu de ça parce qu'il faut sublimer parfois le corps. Il faut regalber, il faut resserrer, il faut faire un peu des choses pour qu'on ait un peu l'impression d'être ces vraies belles femmes et être un peu plus sûres de nos corps. Moi, quand je sais que je vais avoir une journée un petit peu difficile, que je vais être très sollicitée, j'ai besoin d'oublier ce qu'il y a sur moi pour pouvoir partager ma passion de l'art avec le public. Et en simple, les textes répondent tout à fait à mes attentes parce que je peux à la fois être sûre de moi, à l'aise et oublier tout ça pour me concentrer sur l'essentiel. C'est mon secret.
Une lingerie nouvelle génération qui redessine la silhouette, ses secrets et ses prétextes. C'était Être bien, être belle avec les textes. Et rendez-vous sur êtrebienêtrebelle.com.
Europe 1, il est 10h. Le flash Virginie Salmen.
Depuis 5h ce matin, des recherches ont été lancées pour retrouver deux femmes qui voyageaient à bord d'un ferry entre Douvres et Calais. C'est en arrivant à Calais que leur disparition a été signalée. Les deux femmes ont bien pris le bateau en Angleterre. Elles devaient ensuite monter dans un bus jusqu'en Belgique. Mais à l'appel, le chauffeur ne les a pas trouvées. De gros moyens de recherche ont été déployés sur les côtes françaises et anglaises. 4 bateaux de sauvetage, 2 hélicoptères et un avion d'observation survolent les côtes. Les ostréiculteurs d'Arcachon ne seront pas indemnisés, c'est le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, Dominique Bussereau, qui l'affirme. Il explique que ce ne sont pas les 2 décès suspects qui ont conduit à une interdiction de la vente d'huîtres, mais les contrôles sanitaires. Il n'y a donc pas de dommages et intérêts à envisager, dit-il. Les ostréiculteurs d'Arcachon ont pourtant l'intention de demander réparation. Leurs ventes ont baissé de 50 à 80% dans la grande distribution depuis fin août. Dominique Strauss-Kahn juge ce matin tout à fait condamnable la diffusion de la vidéo pirate sur Ségolène Royal, mais tout aussi condamnable d'accuser sans preuve l'un de ses proches d'en être à l'origine. François Hollande, lui, est très optimiste sur le taux de participation à la primaire socialiste. Je pense qu'il y aura au moins 80% de participation, dit-il. Les militants du PS pourront voter jeudi de 16h à 22h, mais ils devront se déplacer dans les fédérations. Il ne sera pas possible de voter par correspondance ou par procuration. Au Liban, un 6e ministre a quitté le gouvernement ce matin. Il s'agit du ministre libanais pro-syrien de l'environnement. Ce week-end, 5 autres ministres ont démissionné. Le camp pro-syrien au gouvernement exige un pouvoir de blocage. Les ministres des autres tendances politiques n'ont pas réussi à trouver un accord avec eux et ont démissionné. Vous allez en entendre parler. Des appartements Feng Shui, du nom de cette science chinoise qui entend jouer sur l'aménagement, l'environnement d'un lieu pour augmenter l'harmonie et le bien-être de ceux qui y vivent. À Lyon, le constructeur Bouygues va lancer des bureaux Feng Shui, clé en main, Jean-Noël Tournier.
L'immeuble est en train de sortir de terre près de la Part-Dieu et effectivement, ces nouveaux bureaux seront bien différents des autres. Ainsi, la porte d'entrée ne sera pas parallèle à la rue, mais légèrement de biais. Des murs d'eau accueilleront le visiteur et le sol sera couleur terre. Des éléments qui ont été pensés, calculés, étudiés par une spécialiste en Feng Shui, Michel Ferréol.
Sur quoi repose le feng shui? Ça vient de la médecine chinoise et le but, c'est déterminer la nature des énergies d'un lieu pour les adapter à une activité et aux personnes. Bon, et à partir de là, on tient compte de toutes les particularités de l'habitat, du plan au sol, bien sûr, mais on tient compte de son orientation, dont aussi l'orientation de la porte d'entrée, c'est pour ça qu'on a joué sur cet aspect-là. On tient compte aussi du cloisonnement intérieur, des couleurs, des matériaux qui sont utilisés à l'intérieur, etc., etc. Donc tout cela a été pris en compte pour l'immeuble 6e sens, bien sûr.
Alors Jean-Noël, cette sophistication doit coûter très cher. Est-ce que ce sont des bureaux particulièrement luxueux?
Eh bien non, les locations Feng Shui seront au prix du marché, environ 200 euros par an le mètre carré. En fait, Bouygues veut offrir un plus à ses clients. Le promoteur part du principe que le stress des salariés et à contrario son épanouissement font partie des nouvelles données auxquelles sont soumises les entreprises aujourd'hui. C'est une manière d'y répondre. L'immeuble sera prêt en juillet.
Jean-Noël Tornier, notre correspondant à Lyon. La météo, beau temps dans le sud-ouest, en région Rhône-Alpes et sur le Midi-Méditerranéen. Partout ailleurs, nuageux et souvent pluvieux. Attention au vent fort sur la Manche et la Méditerranée. Il fera 12 degrés à Lyon, 14 degrés à Paris, Lille et Toulouse, 15 à Bordeaux, 16 à Nantes, 18 degrés à Marseille et 22 à Ajaccio. Voici les préférés de José Covès pour la cinquième course cet après-midi à Vincennes. Le 17 Miller de Melleray, le 18 Idéo du Cadran, le 5 Mourotet, le 11 Lontsac, le 15 My Love Lady, l'As Lady des Loyaux, le 8 Mirage du Goutier et le 2 Ivoire GD. À la Bourse de Paris, le CAC 40 est en hausse de 0,64% à 5482 points. Il est 10h04, c'est Europe 1. Très belle matinée avec nous. Dans un instant, c'est Jacques Pradel.
Et le Grand Prix de médecine 2036 sera décerné au professeur Laurent Mathieu pour le vaccin contre le virus HIV.
Ce sera vraiment un très grand honneur et un très grand plaisir pour moi. Merci.
Faire progresser les enfants, s'impliquer auprès d'eux. Academia, on croit au potentiel de chaque enfant. Contactez-nous au 0810 10 15 20, près d'un appel local.
Vous voulez connaître vos droits, pour vous défendre, pour être conseillé. N'hésitez pas, choisissez un avocat et fixez ensemble un rendez-vous. Exposez-lui votre problème, interrogez-le sur ses domaines de compétences, son expérience, ce qu'il envisage pour votre dossier, le montant de ses honoraires. C'est votre droit et c'est son métier. Toutes les coordonnées des avocats de France sont sur avocat.fr.
Aujourd'hui, 45 000 avocats sont là pour vous conseiller et vous accompagner dans tous vos projets. Les avocats, pour avancer dans un monde de droit. Et pour en savoir plus, avocat.fr.
Écoutez Keith Jarrett. The Carnegie Hall Concert, le nouvel album solo du pianiste d'exception, enregistré en concert à New York. Concert, un double album piano solo de Keith Jarrett sur le label ECM.
Si c'était à refaire, quelle douleur, quel regret effacé, seras-tu là? Le roman de Guillaume Musso aux éditions XO.
Le phénomène Guillaume Musso, 3 livres, 1,5 million d'exemplaires vendus en France, bientôt au cinéma.
XO, lire pour le plaisir.
Des femmes comme vous et chaque jour elles se racontent. Retrouvez-les à 10h30 dans la rubrique On se dit tout pour un nouveau rendez-vous. Être bien, être belle. Que faire devant la grande menace climatique annoncée par la presque totalité de la communauté scientifique? Avons-nous raison de nous inquiéter? Où se trouvent les solutions? Qui peut les mettre en œuvre? Quels sont les mécanismes du réchauffement actuel? Jacques Pradel et ses invités passent en revue les vérités qui dérangent et les actions à mettre en œuvre, car il n'est pas trop tard pour réagir. Avec nous, la journaliste Marie-Odile Delacour pour son livre Climat, la grande menace aux éditions Scrinéo dans la collection Les Carnets de l'Info. Et puis Jean-Marc Jancovici qui est ingénieur conseil spécialiste de l'énergie et du climat, co-auteur du livre Le plein s'il vous plaît, la solution au problème de l'énergie. C'est au seuil, Jacques Pradel.
Oui, alors dans un instant, on va continuer à parler avec mes invités que vous entendez depuis 9h pour voir surtout qu'est-ce que ça impliquera comme changement dans le mode de vie, d'essayer d'apporter une réponse aux problèmes qui se posent actuellement, sachant dans le mode de vie là, et au niveau de notre portefeuille également. Mais avant, je voudrais qu'on prenne au téléphone Nicolas Vanier, que les auditeurs d'Europe 1 connaissent bien, qui est venu souvent dans cette émission. Bonjour Nicolas Vanier. Ah. Alors là, est-ce que Nicolas est là?
Oui, bonjour. Oui.
Ah, ben voilà. Merci d'être au bout du fil. Vous étiez venu dans cette émission parler de votre odyssée sibérienne. Et puis, entre-temps, il y a eu un livre. Il y a eu un film, hein, je crois, qui va sortir en DVD, en tout cas. Et puis, cette odyssée sibérienne, qui paraît aux éditions du Chêne, est en quelque sorte le bilan de ce parcours que vous avez fait à travers la Sibérie jusqu'à Moscou. Et je me disais, c'est la question que j'ai envie de vous poser ce matin, finalement, au-delà de toutes les questions qui se posent sur le problème de réchauffement, bah vous avez été un témoin privilégié parce que au fil des milliers de kilomètres que vous avez parcourus avec votre traîneau à chien, vous avez vu concrètement les dégradations dues à l'activité humaine.
Oui, mais je pense que c'est cela qui est important aujourd'hui, parce que toutes ces notions, réchauffement climatique, émissions de gaz à effet de serre, tout cela reste très abstrait, en tout cas en ce qui concerne les enfants. Moi, j'ai pu le constater au travers de cette grande opération d'éducation à l'environnement qu'on a montée autour de l'Odyssée sibérienne. Mmh. Et ce qui est important, c'est que des témoins, comme je le suis, effectivement, se fassent un petit peu le relais de ce que les scientifiques constatent. Et ce qui est très inquiétant, ce qui m'a attristé et m'a un petit peu mis en colère aussi, c'est de voir qu'effectivement, depuis 4 ou 5 ans, on a véritablement la sensation que la machine s'emballe. Moi, j'ai parcouru les grandes étendues d'Alaska, du Canada, et là, dernièrement, plus de 8000 km en Sibérie sur les 5 dernières années. Mmh. J'ai véritablement la sensation, et c'est quelque chose qui est partagé à la fois par les nomades, éleveurs de rennes, les trappeurs, les éleveurs, tous les gens qu'on rencontre, mais aussi les scientifiques que j'ai pu rencontrer au cours de l'Odyssée sibérienne sur place.
Oui, parce que au standard, il y a des auditeurs, on a parlé de la fonte des glaces, de la banquise, par exemple, au pôle Nord, qui a perdu la moitié de son épaisseur, je crois, en 50 ans, et d'autres auditeurs nous disaient, mais il y a aussi la fonte du permafrost. Alors vous savez ce que c'est, vous l'avez constaté, ça c'est quoi d'abord le permafrost?
Ça fait partie, je pense, d'abord de ce que l'on voit très concrètement sur place, et c'est quelque chose d'excessivement inquiétant pour l'avenir. Mmh. Le permafrost, c'est cette couche de sol gelé en permanence, à l'intérieur duquel on retrouve par exemple encore des mammouths, c'est vous dire s'il est là depuis longtemps. Mmh. J'en ai moi-même d'ailleurs retrouvé deux en 90. Mmh. Et donc cette couche de sol est ce qu'on peut appeler un véritable ciment naturel. Mmh. Sur lequel, dans le Grand Nord, tout tient. Les forêts, les villages, les gazoducs qui nous apportent le gaz jusqu'à chez nous. Et lorsque des phénomènes qu'on peut appeler des anomalies climatiques, ce qui a été le cas par exemple l'été dernier, une canicule absolument inconcevable en Sibérie pendant 10 jours d'affilée, ça a eu pour effet de dégeler ce ciment naturel, donc ce permafrost sur des épaisseurs considérables, de l'ordre de 1 ou 2 mètres. Ouais. Et donc, le sol devient tellement marécageux que tout ce qui tient dessus tombe. Alors, les scientifiques ont un terme très évocateur, ils parlent de forêt ivre. Et moi, j'ai moi-même survolé, éviter cet hiver aussi, quelques-unes de ces forêts ivres, c'est des forêts, vous savez, qui ressemblent à des bêtes de grands mikados géants, à l'intérieur de laquelle aucun grand mammifère ne peut vivre. Ouais. Et donc les arbres tombent, ce sont aussi des villages par endroits qui doivent déménager, et on utilise le terme qu'on va entendre de plus souvent de réfugiés environnementaux,
ce
sont des gens qui sont obligés de changer d'endroit parce que pour des raisons environnementales, le lieu où il vivait, où il vit depuis toujours, n'est plus habitable.
Alors évidemment, j'imagine que pour quelqu'un qui aime autant la nature que vous et qui l'avait sillonné tellement pendant des années sans poser ce genre de questions, parce qu'on n'avait pas les réponses, le constat n'était pas là. Hein. Pendant des années, vous avez sillonné vraiment tout ce qui était glacé sur la planète pour nous montrer comment ces étendues sont merveilleuses. Maintenant, vous êtes obligé de tirer les signaux d'alarme. Alors vous n'allez plus, vous l'avez annoncé, vous n'allez plus faire d'expédition du même type, mais on a l'impression que maintenant vous mettez toute votre énergie justement à vous tourner vers les jeunes, vers un jeune public et essayer de faire prendre conscience à vos concitoyens de tous ces problèmes qui se posent.
Effectivement, il y a eu pour moi une phase d'abord qui a été le constat sur place, donc des questions. À ces questions, les scientifiques m'ont apporté les réponses. Les réponses sont excessivement inquiétantes, d'autant plus que l'on sait que c'est nous qui sommes responsables de tout ça. Donc aujourd'hui, je me sens un rôle et j'ai envie, à mon niveau, à mon petit niveau en tout cas, d'essayer de contribuer à ce que cette prise de conscience soit de plus en plus grande, à ce qu'on passe aussi à l'action, parce que je crois que la prise de conscience, elle est là, elle est de plus en plus grande, mais en ce qui concerne en tout cas les Français, on voit, et des sondages le montrent, c'est qu'ils ne sont toujours pas prêts à changer véritablement de comportement, alors qu'il va falloir changer notre façon de voir, notre façon de vivre. On va d'ailleurs aller pas forcément vers un moins vivre, je pense d'ailleurs qu'on va aller vers un mieux vivre, mais tout cela est un grand débat. Je crois qu'au-delà de ça, effectivement, la nouvelle génération qui arrive est beaucoup plus consciente de nous, des problèmes, parce que nous, il y a 15 ans ou 20 ans, moi j'étais comme tout le monde, j'ai fait des tas de bêtises parce que j'avais absolument pas conscience de ce que j'étais en train de faire. Moi j'ai la sensation que c'est un petit peu comme la cigarette, vous savez, à une époque il y a eu un débat, mais non, la cigarette ça fait de mal, etc. Aujourd'hui on sait pour le climat, c'est pareil. Toute la communauté scientifique est d'accord. Donc maintenant que nous savons, je crois que maintenant, il faut agir. On a une responsabilité vis-à-vis des générations futures. Et effectivement, j'ai envie pour les prochaines années de consacrer mes projets à ça.
Je vous remercie beaucoup, Nicolas Vanier. Je rappelle le titre du livre qui sort, là, L'Odyssée sibérienne, donc aux éditions Duchesne. C'est un rêve que vous avez réalisé, et le bandeau qui accompagne le livre le dit bien, c'est un rêve utile. Merci beaucoup, bonne matinée.
Merci à vous, au revoir.
Alors, Marie-Odile Delacour, je reviens à votre livre, là, Climat, la grande menace, donc dans cette collection, Les carnets de l'info, sur justement les sujets que vous abordez, pour nous montrer pourquoi il faut changer vraiment de manière de vivre. Alors ça commence par les déplacements, par exemple en avion.
Ça commence par exemple par les déplacements en avion. À l'heure du grand tourisme international où les gens prennent l'avion pour un rien, il faut quand même savoir que un aller simple Paris-Miami consomme autant, provoque autant de CO2, ouais, de carburant, ouais, qu'un automobiliste parisien en un an.
Par personne.
Par passager. Donc ça veut dire vraiment qu'il faut qu'on repense complètement notre manière de vivre. Et je voulais dire à ce propos-là que, en fait, plus que les transports, c'est l'agriculture qui provoque le plus de consommation de gaz à effet de serre. Parce qu'en fait, nous mangeons hors saison, nous mangeons des ingrédients qui sont constamment
amenés de l'extérieur,
trimballés en avion, sûr, et nous mangeons aussi de la nourriture. Quand elle n'est pas bio, elle est dopée au pétrole, en fait. Hein, elle est fertilisant. Donc il faut prendre conscience que chaque matin, quand on prend son petit déjeuner, on peut déjà améliorer les effets des gaz. Ouais.
Alors il y a des encadrés, ce qu'on appelle dans la presse des encadrés dans ce livre de Marie-Delacour. Il y en a un qui est merveilleux, je ne peux pas ne pas m'empêcher de vous le citer. Ça concerne un pot de yaourt aux fruits, je suppose. Il y a des ingrédients dans le pot de yaourt. Et il y a une étudiante allemande qui s'est amusée à additionner les distances parcourues par tous les ingrédients qui sont contenus dans ce pot de yaourt. Hein. Et ben elle est arrivée à 9115 km. Alors ça, Jean-Marc Jancovici, c'est ce qu'on appelle l'empreinte écologique.
Oui, alors ça se rapproche de cette idée-là, c'est-à-dire la somme de ce qu'il faut avoir pour disposer de ce qu'il faut émettre quelque part pour disposer d'un produit très particulier. En fait, il se trouve que mon métier est de travailler sur ce genre de choses. Ça fait des années que je développe avec l'ADEME une méthode qui s'appelle le bilan carbone et qui a très exactement cette finalité, c'est-à-dire permettre de donner à une entreprise une photographie de l'ensemble des émissions qui sont nécessaires à son activité chez elle ou chez les autres.
D'accord.
Et ça vous permet donc d'avoir une base de départ. Donc on parlait de que faire. Il faut savoir que dans le monde industriel et économique, il y a déjà des outils qui permettent de faire.
D'accord. Alors justement, on va entrer dans le détail dans un petit instant. Mais du côté du simple citoyen, gérer son empreinte écologique, ça veut dire choisir entre prendre le train ou l'avion pour telle ou telle destination. Hein, vous racontez ça dans votre livre. Il y a un certain nombre de... Alors, il y a des gens qui disent oui, mais c'est des économies de bout de chandelle et tout. Non.
Non, parce que c'est une addition.
Cette addition de petits gestes peut être vraiment importante.
Il faut vraiment qu'on prenne conscience dans une société hyper individualisée que nous sommes un collectif. Mmh. Et si on a perdu complètement le sens du collectif, on est foutu.
Ouais. Alors voilà, alors maintenant, évidemment, il faut répondre à toutes les questions que se posent les gens. On les encourage à prendre les transports collectifs, il faut quand même qu'ils soient là. Et de ce côté-là, Jean-Marc Jancovici a une vision un peu plus noire qu'on va développer dans un tout petit instant. Et aussi, je vais lui demander de raconter si dans l'idéal, on appliquait cette taxe carbone et d'autres propositions que vous faites dans votre livre Le Plein, s'il vous plaît, à quoi ressembleraient nos sociétés.
1860, Pékin. Les flammes dévorent les pagodes rouges et or du sublime palais d'été. Partout, des soldats anglais et français volent et saccagent des trésors de la Chine. C'est la guerre de l'opium. Mais entre ces peuples ennemis va se dresser le grand amour du fils caché de l'empereur et d'une jeune orpheline anglaise. L'Empire des larmes, de José Fraîche, toute la sensualité, la magie et l'aventure d'une Chine inconnue et fascinante, un livre XO. XO, lire pour le plaisir.
Avec le programme de fidélité Carrefour, vous bénéficiez de 40% d'économies sur les tablettes lave-vaisselle 5 en 1 Calbonut Powerball.
C'est important, surtout pour les familles qui ont des enfants.
Bah oui.
Une par jour, deux par jour, ça va très très vite.
40% d'économies sur un produit d'entretien.
C'est clair, c'est net.
Jusqu'au 18 novembre, avec le programme de fidélité Carrefour, bénéficiez de 40% d'économies sur la boîte de 45 tablettes Calbonut Powerball. 40%, le programme de fidélité Carrefour, le pouvoir de baisser les prix. Remise créditée sur votre compte fidélité Carrefour ou à condition en magasin.
Après 28 ans d'absence, la légende est toujours là. Cat Stevens. Cat Stevens, son nouvel album, enfin.
And if the storm should come, and if you face away,
that may be the chance for you to be saved. And if you make it through the trouble and the pain, that may be the time for you to know his name. I'll go with you, I'll go.
Cat Stevens comme à ses plus belles heures. Son nouvel album, déjà un événement à Z.
Chima, ça fait peur, Jacques Pradel.
Oui, non, mais ça fait peur et ça pose plein de questions qui énervent plein de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent sur l'histoire de planter le prix du carburant, par exemple, hein, en disant, ben, finalement, ben, voilà, ça va encore faire vraiment une société ou des sociétés à deux vitesses. Les riches qui en profiteront parce qu'ils n'auront pas d'État, continueront à utiliser leur yacht. Ou, bon, je crois que tous les riches n'ont pas de yacht, c'est pas l'unité yacht qui nous permet ça, enfin bon, peu importe, mais ça provoquera une sélection par l'argent, en tout cas, nous disent beaucoup d'auditeurs, d'autres qui disent, ben moi je fais entre 5 et 7 000 km par mois pour mon métier, qu'est-ce qu'on me proposera comme véhicule, est-ce que c'est vraiment sensé, parce que en gros on vous reproche quoi, de mettre tout par terre et que le remède serait pire que
Il faut bien voir une chose quand même, c'est que sous-jacent à ce genre de remarques que je comprends très bien, il y aurait l'idée que finalement mon plus grand bonheur serait de faire le malheur des autres.
Il y a des gens qui parlent même d'un fanatisme écologique.
Oui, alors c'est je pense qu'il faut malheureusement, c'est malheureusement tout ça c'est des réactions de gens qui s'en prennent au thermomètre quand on leur annonce qu'ils ont 39,5. On peut s'en prendre au thermomètre, malheureusement ça change rien au problème. Donc ce que j'ai envie de répondre à tous les gens qui me disent ou qui disent c'est une mauvaise idée parce que je vais payer plus cher, c'est de bien comprendre en quoi consiste le problème et ensuite seulement de commencer à discuter sur la solution au problème. Et il faut bien voir en particulier que de ne pas prendre cette mesure d'augmentation volontaire du prix, c'est augmenter deux additions qu'on va passer à nous-mêmes pour les plus jeunes ou à nos enfants, qui sont un, l'addition climatique, parce qu'il va bien falloir que quelqu'un passe à la caisse, et deux, l'addition énergétique, parce que quand on utilise, quand 85% de l'énergie utilisée par l'humanité, et même en France, plus de la moitié, malgré le nucléaire, encore une fois que j'aime bien, provient des énergies fossiles, eh bien, à partir du moment où il y a un risque, enfin pas un risque, où il va y avoir une raréfaction de la disponibilité de ces énergies, oui. Si on ne se limite pas volontairement, c'est la physique et la géologie qui nous limiteront involontairement.
Et les biocarburants,
c'est une correction à la marge. Si les biocarburants c'était quelque chose qui était si énergétiquement intéressant et si rentable, il y a longtemps qu'on en ferait plein. Il faut bien voir que rien ne remplace l'énergie fossile en termes de disponibilité et de coût. Quand vous extrayez un kilowattheure de pétrole du désert saoudien, ça vous coûte 0,2 centimes d'euros. 0,2 centimes. Rien, c'est imbattable. Vous pouvez rien faire contre. Et tout à l'heure, on parlait des actes individuels qui permettent de faire moins d'émissions et de consommer moins d'énergie fossile. Eh bien, la raison pour laquelle on cherche tant ce qu'on pourrait faire, elle est évidente, c'est parce que la traduction de l'intensité énergétique n'est pas dans le prix. Si c'était dans le prix, il n'y aurait pas besoin de se poser de questions. Plus c'est cher, plus c'est sale. Et alors à ce moment, c'est très simple. Et c'est justement pour ça qu'on propose de mettre en œuvre cette taxe carbone. Et je vais vous donner deux exemples. Quand vous prenez un low cost pour faire une distance courte, vous émettez 30 fois plus de gaz à effet de serre que quand vous prenez le train. Pourtant, le low cost va vous coûter moins cher. Donc, c'est bien une illustration du fait que c'est pas dans le prix.
Donc,
quand vous mettez un euro dans
le low cost n'est plus dans le paysage de votre.
Non, mais c'est une activité qui est en voie de disparition à l'échelle de quelques décennies. C'est une évidence. Et la deuxième chose, enfin, en termes de flux actuel, et la deuxième chose que je vais vous donner comme exemple, quand vous mettez un euro dans de l'essence, vous faites 20 fois plus d'émissions que quand vous mettez un euro dans une facture de téléphone. C'est bien la preuve que, encore une fois, l'intensité en émissions de gaz à effet de serre ou la quantité d'énergie consommée, vous ne la retrouvez pas dans le prix, et la seule manière que les gens aient un comportement qui s'adapte à la réalité physique, c'est de traduire cette réalité physique dans le prix, et il n'y a qu'une seule manière de faire, si les gens qui m'écoutent ont une meilleure idée, je prends, mais il n'y a qu'une seule manière de faire, c'est de monter le prix de ce qui fait du CO2, volontairement. Il n'y a qu'une seule manière de faire.
Bien.
Mais sinon, ça arrivera involontairement par des chocs, etc. Stern, qui vient, encore une fois, l'économiste de la Banque mondiale, enfin l'ancien économiste, vient
Nicolas,
de dire...
Nicolas Stern
vient de dire, et il a fait ça en faisant de l'économie orthodoxe, où on a le choix entre payer la prévention, et ça, effectivement, ça obligera un certain nombre de gens à moins rouler en voiture. La personne qui a dit, qu'est-ce que vous me proposez comme voiture pour faire 7000 km par mois, j'ai envie de lui dire, au prix actuel, rien. Ou bien votre entreprise considérera...
Supprimer plein de métiers, alors...
Mais ils vont être supprimés de toute façon.
Vous nous disiez, hors micro, attendez, expliquez-moi, parce que hors micro, vous nous expliquiez à Julie, à moi et à Marie-Odile Delacour, que, par exemple, les divorces... ont un coût oui. énergétique.
Absolument.
Expliquez-moi ça.
C'est quand vous divorcez, vous doublez le nombre de surfaces chauffées, vous mettez des freins, mais exactement.
Oui, et alors est-ce que c'est pas ça les limites de l'utopie? C'est-à-dire que les gens continueront à divorcer et les gens qui divorcent n'habitent pas forcément
alors
dans le même quartier.
Alors moi, je vais vous mettre la chose
en... prendre un avion ou un train pour aller voir ses enfants.
Eh ben moi, je vais vous mettre la chose dans le sens inverse. S'il n'y a pas assez d'énergie, les gens ou divorceront moins ou ils n'iront plus voir leurs enfants une fois divorcés. Parce qu'il faut bien voir que c'était le thème du début de l'émission.
Oui.
Pour le moment, le monde a toujours été assez vaste pour nos désirs. Donc on a un système de valeurs dans lequel nos désirs priment sur les lois de la physique. D'accord ? Pourvu qu'on s'en donne les moyens, on s'affranchit d'une contrainte. Et puis à cause du changement d'ordre de grandeur, parce que 1 et 100 c'est pas la même chose, parce que la consommation d'énergie de l'humanité a été multipliée par 10 depuis la fin de la dernière guerre, hein, pas augmenté de 5%, par 10, eh bien un certain nombre de limites qui n'existaient pas il n'y a pas seulement 50 ans, aujourd'hui vont exister de plus en plus durement. Ce qui veut dire que la bonne manière de hiérarchiser les choses pour l'avenir, c'est pas de penser que nos désirs sont au-dessus des contraintes du monde, c'est de penser que les contraintes du monde sont au-dessus de nos désirs. Et si on a une vision de l'avenir qui est antagoniste avec les contraintes du monde, notre vision de l'avenir fera faillite.
Ouais.
Donc c'est pas notre vision qui va se réaliser, c'est autre chose qui a toutes les chances d'être beaucoup plus désagréable que l'idée qu'on s'en fait.
Ouais. Alors la dernière question, d'abord il faut parler de la surpopulation, vous l'abordez dans votre livre, Marie-Odile Delacour, parce que beaucoup d'auditeurs nous disent c'est bien de faire des économies, mais si la population continue de croître, ces économies seront arasées par le nombre de...
C'est l'un des grands défis auxquels nous avons affaire et qui passe notamment par le développement de la Chine et de l'Inde, par exemple. Mais pour ne pas non plus accabler nos auditeurs avec des visions quand même qui pourraient paraître pessimistes, à condition qu'on n'accepte pas de changer, je lisais l'autre jour qu'il y a une ville chinoise, Dongtan, à côté de Shanghai, qui est en train de s'inventer sur une version entièrement écologique. Donc même les Chinois qui représentent officiellement une menace sont en train de réfléchir à des villes différentes.
Ouais.
On a un peu d'espoir quand même.
Ouais. Mais il y a des tas d'acteurs de l'économie française qui font exactement la même chose. Il faut bien voir qu'une bonne partie de notre activité économique consiste à relever des défis.
Mm-hmm.
Moi, je trouve que celui-là en est un magnifique.
Ouais. Mais est-ce que vous pensez, ce que vous décrivez comme système, même, admettons que, moi je ne suis pas là pour combattre vos idées, ni d'ailleurs pour aller dans votre sens. L'idéal serait que tous les pays de la planète appliquent à ce moment-là ce genre de raisonnement. Et beaucoup d'auditeurs nous disent, mais regardez les États-Unis, ils n'ont même pas signé Kyoto.
Alors,
et dès qu'on leur parle d'énergie, ils sont capables de faire la guerre pour aller au Koweït ou en Irak.
Mais on le fera aussi. Il ne faut pas s'imaginer une seconde que nous, on est différents. Le poids moyen des voitures achetées en France a augmenté de 20% en 10 ans. La puissance moyenne des voitures achetées en France a augmenté de 20% en 10 ans. On n'est pas mieux que les États-Unis. Les États-Unis, par ailleurs, c'est un pays, vous savez, complexe quand on voit les choses de l'intérieur. Et il se passe des tas de choses aux États-Unis dont les gens n'ont pas idée quand ils voient juste la position de Bush sur Kyoto. Et dans les choses complexes qui se passent aux États-Unis, vous avez des tas d'industriels qui sont demandeurs, je dis bien qui sont demandeurs de régulation sur ce système, sur cette affaire.
Mm-hmm.
Vous avez des gens à l'échelle locale, au niveau des États fédérés ou au niveau des villes, qui sont en train de prendre des initiatives de manière unilatérale. Schwarzenegger, tout Schwarzenegger qu'il est, a dit la Californie va diviser ses émissions par 5 d'ici 2050.
Et il vient d'être réélu.
Et il a été réélu. Le maire de Londres a été réélu parce qu'il avait mis en place un péage urbain. Donc, encore une fois, je crois que si on explique bien les tenants et les aboutissants, vous allez toujours avoir des gens qui vont dire, et moi comment je fais? Et le but du jeu, comme on est en démocratie, c'est que ces gens-là représentent moins de 50%.
Voilà, en tout cas pour alimenter la réflexion des uns et des autres, donc moi je vous recommande les livres de mes invités. Je recite le livre de Marie-Odile Delacour dans cette nouvelle collection donc des éditions Scrinéo. La collection s'appelle Les Carnets de l'Info et ça s'appelle Le Climat, la Grande Menace. Le livre de Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean, Le Plein, s'il vous plaît, la solution au problème de l'énergie au seuil. Et puis je voudrais reciter quand même le livre qui est paru la semaine dernière du comité de veille écologique autour de Nicolas Hulot, qui s'appelle « Pour un pacte écologique » aux éditions Calmann Lévy, puisque je sais que vous y avez travaillé avec quelques autres. Voilà, merci beaucoup aux uns, aux unes et aux autres. Et on se retrouve demain, ma chère Julie.
À demain, c'était Jacques Trabel dans un instant. La tutélé, Jean-Marc Morandini.
Présidentielle 2007, le service politique d'Europe 1 se mobilise. Avec un blog entièrement dédié à l'actualité des présidentielles, Europe1.fr vous propose de prolonger les rendez-vous d'information d'Europe 1 en questionnant les spécialistes, en échangeant vos points de vue, en discutant entre vous, en discutant avec nous. Le blog de la campagne présidentielle 2007, rendez-vous sur Europe1.fr.
Nous, Altesse Sérénissime Gérard Mercier, roi des flûtes et baguettes, allons en notre carrosse livrer le pain dans les villages environnants.
Mathilde,
oui.
Où sont les clés de notre nouveau Renault Trafic Grand Confort, acquis en faisant moult économies?
Nouveau Trafic Grand Confort, un niveau d'équipement princier. De série, climatisation, radio CD 4x15 watts, ABS avec EBV, airbag conducteur. Et pendant les jours utiles, profitez de 3500 euros d'économie. Renault véhicule utilitaire, on gagne toujours à travailler avec le numéro 1. Offre non cumulable valable jusqu'au 23 décembre, réservée aux professionnels hors loueur et flotte.
Leclerc, notre combat, votre pouvoir d'achat.
Philippe, c'est quoi tous ces petits lardons?
Ah, ça, ce sont des petits lardons Herta, avec 20% de tickets Leclerc.
Mais t'as pas vu un peu grand?
Ah non, j'ai vu un peu bon. Excuse-moi, mais c'est quand même le top du lardon.
Eh ben, on va manger des lardons.
Ce soir, déjà, j'ai envie d'une salade avec des petits lardons.
C'est après de la salade.
Joker.
Jusqu'au 18 novembre, les 200 grammes de dés de lardon Herta transformés en France à partir de viande en provenance de l'Union Européenne sont à 1,84€ contre 9,20€ le kilo, avec en plus 20% de tickets Leclerc sous présentation de votre carte Leclerc. Formez la dans la case à participants.
Et une petite omelette avec des lardons.
T'as pris des œufs?
Quoi?
Elle a donné naissance au plus grand bouleversement de notre histoire, et on ne la connaît pas.
Découvrez Marie, le nouveau grand roman de Marek Alter.
Avant d'être la mère de Jésus, qui était Marie? Quel rôle jouait-elle dans le turbulent royaume d'Israël, divisé par les sectes, écrasé par l'occupation romaine? Avec son irrésistible verve romanesque, Marek Alter fait revivre cette jeune femme de Nazareth qui se dressa contre l'inhumanité des hommes et le silence de Dieu.
Marie de Marek Alter, un livre Robert Laffont.
Europe 1. 10h30, on se dit tout. Ce sont des femmes comme vous et chaque jour, elles se racontent. Aujourd'hui, Martine, 45 ans, responsable de plateau. Eh bien, je suis responsable de plateau en théâtre et je suis une personne qui bouge énormément. Je travaille aussi bien en cabine, sur le son, les lumières. Je vais voir les comédiens sur le plateau directement. Je peux m'occuper aussi bien des entrées, des sorties. Enfin, je dois être très disponible et très exigeante sur mon travail. Je suis très exigeante également sur ma lingerie. Et ma lingerie, je demande un maintien, une souplesse et en même temps une certaine élégance. Peut-être que c'est une marque qui s'adapte très bien à ma vie de tous les jours, sur ce travail que je fais de bouger énormément et de ce maintien que je demande pour tous les jours.
La sensation d'un maintien impeccable et des lignes esthétiques, ses cœurs croisés et ses plétex. C'était Être bien, être belle avec plétex. Et rendez-vous sur êtrebienêtrebelle.com.
Parlons-nous, Jean-Marc.
Ils nous auront tout fait, hein. On a eu l'érection, le soutien-gorge maintenant. Où est-ce que ça va s'arrêter cette chronique?
C'est la réponse du tout, Jean-Marc.
Ah, ben ça.
Se dit tout.
Alors, parlez-nous. Alors, dites-nous. Racontez-nous, tout. Julie.
Bonjour.
Bonjour, Julie. Bonjour à tous. Bienvenue dans le journal de la télé le plus écouté de France. On comprend pas pourquoi, mais ce qu'ils nous mettent avant. Finalement, il n'y a pas de sujet.
C'est un bon sponsor.
Exactement. Vous allez être les premiers à tout savoir sur les coulisses du petit écran. Et ce matin, on va allumer la télé avec le film de TF1 battu par une série de France 2 hier soir. Pas de chance hein, pour la une qui retentait les films en première partie de soirée le dimanche. Nous ferons l'analyse complète de ce phénomène avec Régine Tournier. Elle est de la société MPG Conseil. Elle dirige le département télé de cette centrale d'achat d'espace publicitaire. Et puis, on vous détaillera tous les chiffres d'audience du week-end avec Rodolphe de la Boulay.
Ouais, pour éviter de nouvelles déconvenues, la première chaîne effectivement a dégainé une grosse production. Bad Boys 2, mais vous l'avez dit, ça n'a pas suffi, vous verrez.
Les médias vont-ils trop loin dans la vie privée des stars? C'est Marc-Olivier Fogiel qui a jeté un pavé dans la mare en interrogeant une chanteuse sur sa potentielle liaison amoureuse avec un footballeur. C'était dans T'empêche tout le monde de dormir le 31 octobre dernier. Pour en débattre avec nous dans ce studio, à 11h15, Laurence Piau, la rédactrice en chef du magazine Closer, François Mattei, le directeur de la rédaction de François, Roland Pérez, avocat et médiateur d'Europe 1. Alors et vous, qu'en pensez-vous? Les médias vont-ils trop loin dans la vie privée des stars? Est-ce de l'information? Selon vous, voulez-vous tout savoir? Vos questions 01 42 32 15 15. Et c'est notre sondage de la semaine. La presse people va-t-elle trop loin? Vous pouvez voter jusqu'à dimanche sur www.jeanmarcmorandini.com. Info, scoop, révélation, Maître Maubert et ses news, c'est dans un instant.
Je vais vous révéler plein de choses supplémentaires sur la nouvelle émission de M6, À la vie, à l'amour. On vous en parlait la semaine dernière, mais ce matin, on va compléter avec la révélation du nom de celle qui pourrait bien présenter ce programme. Attention, vous allez être particulièrement étonné.
Après
après l'élimination controversée de Nicolas il y a 10 jours à la Starac, on vous a posé une question concernant cette Star Academy. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que la production fait ce qu'elle veut ou que c'est vraiment le public qui décide? Vous avez été plus de 10 000 à voter. Cyril Ferraud, notre expert de télé-réalité, sera avec nous pour commenter les résultats de ces votes et vos réactions.
Et oui, un sondage qui ne vous a pas laissé indifférent, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous allez voir, le résultat est édifiant, on en parlera tout à l'heure.
Vendredi, c'est Ludovic qui a quitté le château de la Starac. Ce matin, il sera en direct avec nous. Et puis à 11h45, la Libre Antenne. Nous sommes aujourd'hui le lundi 13 novembre 2006. Voici le ZAP 5, les 5 moments clés qu'il ne fallait pas rater à la télé ce week-end. Vendredi 13h48, Canal Plus en aparté, Pascal Clark recevait Arthur. Yacine, le chroniqueur télé de l'émission, fait allusion au rapport qu'entretient Arthur à l'argent, ce qui agace l'animateur au plus haut point.
Vous avez les chiffres, Arthur, je crois?
Les chiffres, non?
Les gros chiffres. Non, très bien.
Et tout ça ne fait pas un peu trop cliché?
Non, mais j'essaie.
Arthur, l'argent. C'est marrant parce que c'est surtout un canal. Les guignols, Arthur, l'argent.
Non, mais
c'est... Le zapping, à chaque fois, ces images d'Arthur avec l'argent.
Il y a des choix pour tout.
J'en ai de l'argent. J'en ai beaucoup. Et je suis sûr que vous, autour de cette table, vous rêveriez d'en avoir autant. Maintenant,
c'est
la vie.
Trop. C'est que des problèmes.
Arrêtez un peu de me prendre la tête avec l'argent tout le temps. J'irai après vous. Hein,
je vous en prie.
Mais c'est juste.
On a le même compte en banque.
Oh là là, on ne me parle que de ça.
Vendredi, 19h06, direct 8, Carl Zéro était mon invité à la télévision et l'ex-animateur de Canal Plus ne s'est pas privé de balancer sur celle qui a pris son créneau sur la chaîne cryptée, autrement dit Laurence Ferrari.
Vous savez combien on faisait la première année? Parce que là on compare avec la 10e année du vrai journal et déjà elle est en dessous, largement. Mais la première année, la moyenne de la première année c'était 13,5.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas?
J'aime bien Laurence Ferrari. D'accord. Elle a une meilleure plastique que moi, ça c'est indéniable. Voilà.
Bah, c'est super méchant, je trouve. Non, mais je suis très sérieux. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans son émission?
J'aime bien Laurence Ferrari. Ouais. Dans son émission, ça me fait l'impression un peu de Canada Dry, quoi. Ça a la couleur de l'alcool, ça a le goût de l'alcool, mais ça n'est pas de l'alcool. Pourquoi ne pas faire une émission de télévision comme le Club du Net, qui est une émission où je reçois chaque semaine un politique, un candidat à la présidentielle. Et je suis assisté pour ça par des blogueurs.
Vous êtes la Laurence Ferrari du Net?
Non, pas du tout. Laurence Ferrari est la sous-car zéro de Canal+. C'est très différent.
Voilà, au moins c'est dit. Samedi 20h01, Canal+, salut les terriens, c'était la deuxième du magazine de Thierry Ardisson, une émission dans laquelle on retrouve Stéphane Guillon. Stéphane Guillon qui a terminé sa chronique sur une note assassine, il s'en est pris, un célèbre magazine de Press People.
On termine par un voici particulièrement immonde. Cette semaine, le journal inaugure une nouvelle rubrique, la torture morale. La recette, prenez Jacques Martin qui est paralysé dans un établissement médicalisé, puis achevez-le en publiant des photos de sa femme batifolant avec un jeune homme fringant. Dans le même temps, voici offre une cafetière aux lecteurs qui s'abonnent. Pour les filtres, utilisez du papier cure, vieux truc de scout, ou, c'est encore mieux, le journal lui-même. Voilà.
Voilà, et on parlera de la Press People tout à l'heure à 11h15. Les médias vont-ils trop loin dans la vie privée des stars? 01 42 32 15 15. 17h34, TF1, le Mopets TV. Les Mopets se sont mis à l'écologie. Kermit et ses amis militants, chanson pour le tri sélectif des déchets. Ça ne fait de mal à personne et c'est plutôt drôle.
Les fonds d'assiettes, c'est pour la poubelle verte. Les bouteilles d'eau, c'est pour la poubelle jaune. Pour vos canettes, c'est un peu prise de tête, c'est pas ma faute. C'est pour la couche d'ozone, est-ce que tu m'entends? Eh oh! Est-ce que tu les sens? Eh oh! Trie tes aliments. Eh oh! Oh oh oh! Ah oh ah oh! Est-ce que tu m'entends? Eh oh! Est-ce que tu les sens? Eh oh! Trie tes aliments. Eh oh! Oh oh oh! Ah oh!
Ah ben là c'est bon, là j'ai compris.
Ça peut être le genre de chanson qu'il faut apprendre aux gamins dès l'école, parce que c'est bête, mais c'est très mémotechnique pour savoir comment trier ses déchets. C'est le genre de chanson bien. Voilà, le Mopets TV sert à quelque chose. 19h40, TF1, 7 à 8, on a pu voir le témoignage de Jean-Charles Escribano, infirmier libéral, en toute liberté. Il parle d'un sujet tabou, la maltraitance des personnes âgées dans les maisons de retraite et lieux spécialisés.
Ce qui est assez frappant, c'est que ces personnes âgées arrivent dans un état effectivement très avancé de fatigue. En quelques jours, elles deviennent incontinentes parce qu'on leur met des couches. En quelques jours, on les infantilise. On les appelle la mamie, on les tutoie.
Ce ne sont plus des êtres humains, ce sont des objets de soins, des objets de travail. C'est la déshumanisation totale. Ce ne sont plus des noms, mais ce sont des chiffres. C'est le numéro de la chambre. C'est dur. C'est vrai que le tutoiement est le premier des signes.
L'autre question qui se pose, c'est l'hygiène. Très souvent, il y a des odeurs absolument insupportables dans ces chambres. Les odeurs d'urine en particulier. On n'a pas le temps de changer les couches, on n'a pas le temps de les aider à aller aux toilettes. Pourquoi ils sont dans cet état de souillure?
Par économie.
Voilà. Par économie.
Ouais. Voilà, dans un instant, toutes les audiences du week-end avec Rodolphe de la Pouille.
Des milliards d'individus dans le monde, des milliers de langues qui les empêchent de se parler. Babel. Et si leur destin était lié? Si les frontières n'étaient là que pour être franchies? Brad Pitt, Kate Blanchett, Gael Garcia Bernal. Babel. Prix de la mise en scène Cannes 2006. Babel. Le 15 novembre au cinéma. Un partenariat européen.
Dites, si je vous dis que chez U, on a fait baisser ce produit-là de 0 à 1,90€, qu'est-ce que vous dites de ça?
C'est bien, c'est très bien.
Attendez, et si je vous dis que les nouveaux commerçants ont fait ça sur des dizaines et des dizaines de produits pour vous proposer des petits prix à moins de 1€, moins de 2€, hein? Au bout du compte, quand vous faites vos courses, vous imaginez les économies?
Vous avez raison, maintenant que vous le dites.
Bah oui, il faut toujours que ce soit moi qui vous le dise, il faut un peu réfléchir par vous-même, mon vieux, bah oui.
Les tout petits prix euros, c'est du 14 au 25 novembre.
Les magasins U, les nouveaux commerçants.
Demain, à l'occasion d'une journée spéciale prison état d'urgence, Canal Plus vous met derrière les barreaux.
Violence, surpopulation, vétusté, manque d'hygiène, promiscuité. Canal Plus vous montre comme jamais la réalité carcérale.
À travers sa nouvelle collection documentaire, Canal Plus décrypte les grands enjeux de notre société pour faire avancer le débat. Demain soir à 20h50, ne manquez pas le documentaire Prison, la honte de la République, diffusé à l'occasion de cette journée spéciale. Canal Plus, demandez plus à la télé.
Pour un jour de plus, le nouveau roman de Mitchell Baum. Charley est désespéré et abandonné de tous. C'est alors que le destin lui offre la chance extraordinaire de revoir sa mère, disparue depuis 8 ans, pour un jour de plus. Elle va lui transmettre le plus beau des cadeaux, le secret du bonheur. Grâce à ce jour de plus, Charley va réapprendre à vivre. Pour un jour de plus, de Mitchell Baum, un livre pour vous réconcilier avec la vie. Aux éditions.
Mitchell Baum, déjà plus de 20 millions de livres vendus dans le monde. Jean-Marc Morandini.
Avec les audiences de tout ce week-end, Rodolphe, et on commence par les audiences de vendredi.
Et oui, c'était la Star Academy, et après avoir battu son record de la saison la semaine dernière, l'audience de la Star Academy fléchit vendredi. Il faut dire que le prime était beaucoup moins mouvementé que celui de la semaine dernière. Des 7 millions de fidèles il y a 8 jours, on est passé à 6 millions 615 080 téléspectateurs pour 31% de part de marché.
La deuxième place, c'est France 2 avec NCIS.
Mais si la Star Academy...
C'est M6 plutôt, pas France 2.
Ah oui, c'est M6, c'est moi qui me suis trompé. Et si la Star Academy et débat, la série d'M6 est faite d'une incroyable régularité. C'est exactement la même performance que la semaine dernière. 6 222 660 téléspectateurs et 24,9% de part de marché.
Le TF1 20h50, c'était samedi avec les 100 plus grands.
Et après les 27% décevants des 100 plus grands bêtisiers du net, c'était le 21 octobre, l'émission de Christophe de Chavannes et Sandrine Quétier a fait beaucoup mieux avant-hier avec un gain de près d'1 million de téléspectateurs. 6 502 960 téléspectateurs et 30,7% de part de marché.
France 2, France Nouvelle.
47-3, c'est la grosse déculottée infligée par les All Blacks au 15 de France, mais c'est pas perdu pour tout le monde. Malgré la déroute, ce match a été très suivi, et c'est France 2 qui fait la bonne affaire. 5 381 760 téléspectateurs, 24,1% de part de marché. Revanche samedi prochain au Stade de France, et nouvelle belle audience en perspective pour France 2.
Sur M6 à 20h50, Laurent Gérard fait son show.
Et dès que Laurent Gérard est l'invité principal d'une émission, c'est une grosse performance assurée, c'est pas Michel Drucker qui dira le contraire, mais ça ne marche pas à tous les coups. Alors certes, avec 3 587 840 téléspectateurs et 16,1% de part de marché, cette émission a fait mieux que les 11-12% de charme habituellement sur ce créneau, mais M6 s'attendait certainement à mieux que cette quatrième place après TF1, France 2 et France 3.
TF1, 13h30, il y avait le magazine Reportage qui a battu son record d'audience. Ouais.
Le magazine de Claude Carré s'est consacré aux pompiers de l'extrême. 6 895 380 téléspectateurs, 45,2% de part de marché.
On passe aux audiences d'hier soir, sur lesquelles on reviendra largement hein, tout à l'heure après 11h, puisque l'événement c'était le retour des films sur TF1. Film battu par France 2 et une série américaine.
Ouais, effectivement, c'était le fameux retour du cinéma en prime le dimanche et donc le retour du choc film sur TF1 face à FBI sur France 2, des matchs gagnés très souvent par la série policière. C'est ça qui avait conduit TF1 à programmer des experts. Alors pour éviter peut-être des convenus, TF1 sort de très grosses productions inédites en clair comme Bad Boys 2, mais apparemment ça ne suffit pas. Face aux experts, FBI devait se contenter de 5,5 millions de téléspectateurs. Hier, la série de France 2 en a gagné 2 millions. Elle a pris la tête des audiences, ce qui n'était jamais arrivé face aux experts. 7,455,980 téléspectateurs, 27,4% de part de marché. C'est 700 000 fidèles de plus que Bad Boys 2 sur TF1. 6,783,260 téléspectateurs et 29% de part de marché.
L'audience de France 3.
Peine Sardine, une comédie dramatique avec Charlotte Valandré, 3,419,660 téléspectateurs et 13,1% de part de marché.
M6, Capital.
Et l'émission se demandait si au sein de l'entreprise, les femmes étaient meilleures que les hommes, un sujet qui a beaucoup moins mobilisé que l'émission sur l'alimentation il y a 15 jours, émission suivie par près de 20% du public. Hier, elles étaient 3,195,420 téléspectateurs, soit une part d'audience de 12,7%.
Enfin, Arte, quand Arte marche bien, c'est qu'un film.
Voilà, et si les films ne remportent pas un franc succès sur TF1, sur Arte, c'est le cinéma qui ramène les meilleurs scores. Ce film sur l'univers carcéral avec Paul Newman a réalisé un superbe score, 2,074,220 téléspectateurs et 8,1% de part de marché.
Merci, Rodolphe de la Boulay, pour ces chiffres fournis par Médiamétrie. Tout de suite, votre avis sur la télé, c'est le...